Et si on partait sur Europe 1, comme tous les jours entre 16h et 18h, je vous emmène pour un grand voyage. Vous le savez, chaque jour, deux destinations, une en France, une au bout du monde, juste pour le plaisir de rêver. C'est parti.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler.
Tout à l'heure, donc après le flash de 17h, nous ferons un voyage vers une terre sauvage où on peut rouler pendant des heures, voire des jours, sans même voir une seule trace humaine. C'est une expérience rare de la solitude dans des paysages incroyables comme ces steppes. Moi, c'est mon endroit préféré en Mongolie, des steppes à l'herbe rase, à l'infini, sur des formes rondes, c'est magnifique. Il y a aussi le désert de Gobi, qui est un désert de cailloux, de rocailles, qui est le plus grand désert du monde. C'est une terre aussi de montagnes pour ceux qui aiment. C'est un super voyage. Donc ça, tout à l'heure, à partir de 17h, nous irons en Mongolie. Et puis juste avant, ça va être très sympa aussi, je le sens. Une super région française qu'on aime parce que c'est beau, c'est gourmand, l'accent y est rocailleux. Et puis on a un super guide pour la découvrir. Nous irons dans l'Aveyron et nous serons avec un Aveyronnais de cœur, de grand cœur, le photographe culte Jean-Marie Perrier. Avec toute la bande de voyageurs, bien sûr, ils sont tous là. Il y aura Jean Bernard du guide Lonely Planet.
De retour.
Il y aura Nathalie Elal.
Bonjour à tous.
Bonjour. Il y aura, il est de retour, Olivier Pouls, notre chroniqueur gastronomique, qui rentre de vacances, bronzé, rafraîchi.
Non, mais je m'ennuyais tellement en vacances, vous me manquiez tellement que j'ai abrégé tout ça et hop, direction Paris pour
retrouver. C'est vrai que c'était pas si long, hein, vous avez fait court, on vous croit vraiment.
Non, mais je vous jure.
On vous croit sincère. Un petit coucou à Emmanuelle Jarry, qui, elle, est partie en vacances, qui est déjà
la
sur la
pauvre.
Côte. La pauvre. Elle nous a envoyé une photo du menu du restaurant où elle était ce midi. Alors, c'est assez rigolo parce qu'il y a 12 euros, 12 huîtres, un verre de vin ou 12 euros, 12 verres de vin, une huître.
On se demande ce qu'elle a choisi.
Je lui avais recommandé de prendre les deux.
Donc voilà, on l'embrasse fort et repose-toi bien, Emmanuel. Et puis, alors, on va parler de l'Aveyron, on va attaquer tout de suite. Mon cher Jean-Bernard, où est-ce que ça se situe géographiquement ?
Oh, c'est au sud-ouest de la France, dans la région, cette belle région qui s'appelle l'Occitanie. Et puis, le paysage de l'Aveyron est quand même très typique parce qu'il y a ce qu'on appelle les causses.
Oui.
C'est des grands plateaux calcaires qui sont tailladés par l'érosion. Il faut savoir aussi que ce département, il a une caractéristique bien particulière, c'est que c'est l'un des moins peuplés de France.
Ah,
c'est-à-dire
oui.
la densité de population est faible.
Ah, je crois que c'est la Creuse.
Alors, c'est dans ce registre-là, l'Aveyron figure en bonne place. Donc,
d'accord,
vous serez bien tranquille si vous voulez du dépaysement, vous serez bien seul là-bas. Et puis, c'est aussi l'un des départements les plus grands. Donc, il y a beaucoup de territoires à visiter, dont notamment une région qui s'appelle le Rouergue également.
D'accord. Rien que les noms.
Ah, oui, on a envie d'y aller, le Rouergue.
Mystique.
Ça roule, c'est rocailleux. C'est, voilà.
Nathalie Elal, il y a des grands hommes, des célébrités qui viennent de l'Aveyron ?
Oui, déjà l'un des plus grands naturalistes de tous les temps. Il est né dans l'Aveyron à Saint-Léonce en 1823. Il s'appelait Jean-Henri Fabre.
C'est une célébrité, lui ?
Ah bah oui, parce que c'est un pur autodidacte. Et d'ailleurs, on enseigne son œuvre aux enfants japonais plus qu'aux français, c'est pour vous dire.
Ah bon ?
Également un écrivain, un poète reconnu, aquarelliste de talent. Et figurez-vous une petite anecdote que j'ai trouvée très drôle. On l'a renvoyé du lycée d'Avignon où il enseignait à l'époque parce qu'il avait osé expliquer la fécondation des plantes aux jeunes filles. Tout un programme.
C'est pour ça que vous l'avez mis dans la liste des célébrités.
Mais évidemment, je n'ai pas pu résister. Également un grand peintre, alors là on est dans le sérieux, également un graveur qui a fêté ses 100 ans, qui est né à Rodez le 24 décembre 1919. Il s'appelle Pierre Soulages.
Ah, oui.
Un grand maître de l'art abstrait, particulièrement connu pour son usage des reflets du noir, qu'il appelle le noir lumière ou l'outre noir. Donc c'est vraiment un grand homme. Et puis aussi un joueur, entraîneur, dirigeant de rugby, Bernard Laporte, également né à Rodez, homme d'affaires aussi, et puis homme politique qui a été secrétaire d'État chargé des sports entre 2007 et 2009. Toujours du côté des sportifs, Stéphane Diagana, vous savez, le spécialiste du 400 mètres haies. Il est né en 1969 à Saint-Afrique. C'est vraiment le premier champion du monde d'athlétisme masculin français en 97 à Athènes. Et pour la bonne bouche, parce que j'y pense toujours là aussi, Michel Brass, qui est né...
Je le connais bien, lui.
Né à Gabriac en 1946, triple étoilé pour son restaurant de l'Aïole, classé à plusieurs reprises dans la liste des 10 meilleurs restaurants au monde. On sait salive devant sa cuisine créative à base de fleurs. Et puis, il a inventé quelque chose qui est cher à notre cœur, le coulant ou mi-cuit au chocolat, souvent imité, jamais égalé.
Il a inventé le mi-cuit au chocolat.
C'est lui, oui.
Oui, ah, c'est dingue, c'est énorme comme invention, ça.
Plein d'essais.
Ah,
hein.
Surtout que ça a été copié dans le monde entier par la suite.
Oui, oui, c'est dingue. Très bien. Merci Nathalie. Olivier, un gourmand comme vous, l'Aveyron, bon, ça doit vous inspirer, ça.
Et puis surtout, même pas peur, parce que moi, 16h et maintenant 8 minutes, il fait 36 degrés dehors. Moi, un petit aligo, ça m'irait bien, une petite saucisse aligo.
Je suis parti bien. Mais moi, je suis comme vous, il n'y a pas de chien.
Ah, je suis certain que je ne serais pas le seul à la manger. Puis on terminerait par un petit morceau de Roquefort, tiens, par exemple.
Ouais. Ah, on va être bien.
Ouais.
On va être bien. On se retrouve dans un tout petit instant pour ce grand voyage Mongolie, Aveyron et Jean-Marie Perrier. Ça devrait être pas mal. À tout de suite.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
2 heures de voyage tous les après-midi, sans aucune contrainte, sans frontières. À partir de 17h, nous irons donc sur les terres de Gengis Khan en Mongolie. Mais là, tout de suite, nous sommes dans l'Aveyron. L'Aveyron, vous le savez, ce sont les gorges du Tarn, le viaduc de Millau, le Roquefort. Et c'est aussi le photographe culte. Le nombre de stars immenses qui sont passées devant son objectif est gigantesque. Gigantesque, ça va de Mike Jagger à Dutron, Johnny, Yves Saint-Laurent.
Mick Jagger, non, fais gaffe quand même. Mick Jagger.
On ne dit pas Mike Jagger ?
Ah non. Ah non, Mike, c'est M-I-K-E. Ah non,
Mike Jagger.
Attention, parce que
pardon.
Il va s'énerver. Hein.
Ouais,
non,
sens,
mais c'est pas ça.
Je l'ai déjà mis en colère au bout de deux
mais
secondes.
Mais non, mais vous prenez 10 ans d'un coup, là, en disant ça.
Bon, alors, Mick Jagger, Johnny, Yves Saint-Laurent, Karl Lagerfeld, Étienne Dao, Sardou, Ingrid Betancourt. Enfin, c'est colossal. C'est absolument colossal. Vous êtes aussi auteur, réalisateur et surtout aveyronnais de cœur, Jean-Marie Perrier. Bonjour.
Bonjour.
Ça me fait plaisir de vous avoir là à mes côtés. Et expliquez-moi un truc, parce que vous avez fréquenté le gratin mondial.
Oui, j'ai beaucoup de chance.
Vous avez vécu aux États-Unis et vous, vous posez vos valises dans un des endroits les moins peuplés de France. À l'Aveyron, qu'est-ce qui s'est passé ?
Et parce que d'abord, j'ai vu assez de monde dans ma vie. Ensuite, que quand on arrive à mon âge très avancé, remarquez, j'ai prévu ça avant, parce que ça fait 25 ans que je suis là-bas.
Oui.
Hein. Oui, mais enfin, j'ai prévu qu'il fallait se calmer. Et c'est extraordinaire de finir sa vie dans un endroit, un, qui ressemble à la campagne de mon enfance. Il n'y a plus beaucoup des campagnes vraies.
Hein. Mais c'est quoi la campagne de votre enfance ? Parce que vous êtes né à Paris.
Oui, d'accord, mais enfin, j'allais quand même à la campagne souvent. Les vacances, c'était à la campagne.
Ouais.
Et j'adorais ça. Or, un endroit dans lequel vous pouvez faire 15 km sans voir une maison, dans lequel il y a des gens normaux. Non, mais c'est vrai.
Que pourquoi ceux que vous avez rencontrés n'étaient pas normaux ?
Ah ben non, c'est surtout Paris, les grandes villes, c'est plus normal du tout. Ils sont tous devenus fous là-dedans. Non, non, non. Là-bas, il y a des gens, ce que j'appelle les gens normaux, c'est des gens qui d'abord disent bonjour à ma chienne avant moi quand je rentre dans un magasin.
Ça, c'est normal, ça, de dire bonjour à votre chienne avant vous.
Évidemment, bien sûr. Qui se lève le matin très tôt, parce que j'ai beaucoup de paysans autour de moi, ouais, qui élèvent des animaux, tout ça. Bon. Les mecs, ils se lèvent très tôt tous les jours, ils n'ont pas de vacances, pas de week-end, et ils gagnent que dalle et ils ne râlent jamais. Bon,
ouais.
C'est quand même très, très rare en France.
Ouais,
ça,
oui, hein, oui.
Et puis, je ne sais pas, il y a une. Oui, il y a une gentillesse des paysages et de la façon de vivre. Là, c'est pour ça que je suis allé là. Et puis, alors aussi, parce que c'est loin de Paris et difficile d'accès. Parce que n'oubliez pas que dès qu'il y a le TGV, les crétins arrivent. Et alors là, c'est foutu. Ça construit des conneries dans tous les sens. Il y a des parkings souterrains, tout c'est foutu.
Le TGV, c'est le train des crétins.
Absolument.
Vous pouvez développer
Ben oui, c'est très simple. Parce que tout à coup, plus on élimine les distances... Bah, plus il y a de monde qui arrive, et plus il y a de monde qui arrive, forcément, il y a de plus en plus de crétins. Prenez donc.
Oui, c'est statistique, vous voulez dire.
Bah, évidemment. Et alors, tout à coup, ils vous transforment une campagne en espèce de ça ressemble vaguement à la campagne, mais tout devient faux, quoi. C'est comme les golfs. Il n'y a pas pire qu'un golf. C'est le contraire de la campagne. Vous voyez, c'est une espèce de parking avec du gazon dessus. Donc, là, ce que j'aime, c'est que c'est vrai, quoi. Ça semble vraiment vrai. Je trouve que ça vaut énorme. De l'or, n'oubliez pas non plus que bon, alors il y a les marchés, c'était quand même pendant la guerre le garde-manger de la France, ouais, hein, parce que là, pour la tortore, ça y va, je peux vous dire. Hein. Donc voilà, j'ai plein de raisons d'être là-bas, mais c'est aussi parce que j'avais envie d'être seul, c'est vrai, parce que je suis à 7 km d'un village très joli médiéval qui s'appelle Villeneuve d'Aveyron.
Ouais.
Et je suis à 7 km, il y a les vaches, mes deux ânesses, ma chienne et moi.
Alors c'est tout, juste votre chienne, vos deux ânesses et
oui,
vous.
Oui, absolument. Et c'est un enchantement.
Et pourquoi ce besoin d'être tout seul comme ça?
Mais parce que, mon ami, quand on a eu beaucoup de chance comme moi de voir, de voyager pendant 60 ans, je n'ai pas arrêté de bouger. J'ai vu des gens extraordinaires, d'autres qui l'étaient moins. Mais à un moment donné, il faut pouvoir aussi se consacrer au fait, non pas de ne rien faire, parce que ça c'est donné à n'importe qui, non, de faire rien.
Ah oui, faire rien, c'est toute la nuance.
Faire rien, c'est réservé à l'élite, attention.
Et c'est quoi faire rien?
C'est-à-dire pouvoir s'asseoir en fin de journée au moment où la campagne s'arrête. Vous savez qu'il y a toujours un moment où la nature se tait. Les oiseaux arrêtent de chanter, les feuilles ne bougent plus. Et là, vous êtes assis, vous voyez les nuages, vous regardez, vous sentez chaque seconde qui passe, et là vous vous dites, voilà, je suis là, et ce que je vis, c'est formidable d'être là, voilà. Ouais.
Alors, vous êtes photographe. Comment vous décririez les paysages de l'Aveyron?
Ah, alors écoutez, en tout cas, ne me dites pas « Oh, ça ressemble à la Toscane, il n'y a rien qui m'énerve plus ». Non, mais à chaque fois, en France, dès qu'un paysage est beau, il met
«
T'as toujours !» Tu vois, j'ai hâte d'aller en Toscane pour dire « Ah, c'est pas mal, on dirait l'Aveyron
!» Bon, et donc sinon, ça ressemble à quoi?
Il y a beaucoup, beaucoup de villages très beaux. Ouais. J'aime beaucoup les villages anciens. Il y a beaucoup de villages, il y a des églises superbes, oui, comme vous le disiez, il y a des fleuves, il y a des gorges. Enfin, écoutez, allez-y.
Est-ce qu'il y a une lumière particulière?
Oh non, ça c'est des conneries de photographe, ça. Non, mais ça c'est comme les mecs qui disent oui, la lumière est très belle. Non, c'est pas la lumière, c'est le soleil, il est toujours pareil, c'est ce qui se reflète. Ouais. C'est ça qui est beau. Alors oui, la lumière est très belle, mais elle est très belle aussi ici. Si vous regardez là par la fenêtre, je peux vous dire que vers la fin du jour, c'est pas mal non plus. Ouais, non, ouais. Ça, j'y crois pas, la lumière qui est belle.
Quand même, hein.
Oui, bah, j'espère bien.
Et quand on parlait des Causses tout à l'heure, je trouve que les Causses, il y a quand même un truc un peu mystique quand on est dessus.
Oui, je suis dessus, moi, sur les Causses. Ouais. Mais alors, il y a deux sortes de Causses. Il y a les Causses basses, où je suis, et puis il y a les Causses hautes, où là, c'est un peu rude. En hiver,
c'est oppressant.
C'est des plateaux qui sont assez
hauts. Ouais, en hiver, c'est sévère. Mais c'est là où est Brasse, d'ailleurs. Ce qui est merveilleux, lui, c'est quand il fonce dans la montagne et il va chercher des herbes partout. C'est une façon de vivre qui est extraordinaire. Mais enfin, Millau, tout ça, c'est plus rude. Moi, c'est bon, il a peut-être neigé deux fois en 25 ans, quoi. C'est quand même plus doux, quoi. Ouais.
Bon. Et Jean-Marie Perrier, vous restez avec nous, bien sûr. On continue à découvrir l'Aveyron dans un tout petit instant avec vous sur Europe 1.
16h, 18h. Et si on partait? Philippe Googler sur Europe 1.
Nous voyageons sur Europe 1. Nous partirons tout à l'heure, après le flash de 17h, en Mongolie, le pays des chevaux en liberté, des steppes, des déserts. Ça a été un voyage magnifique tout à l'heure, après le flash de 17h. Mais là, tout de suite, nous sommes en Aveyron avec un Aveyronnais de cœur, un guide exceptionnel, Jean-Marie Perrier. Alors, Jean-Marie Perrier, il semblerait que vous ayez dit qu'il y a trois choses indispensables pour se faire accepter par les Aveyronnais, là où vous avez posé vos valises. C'est 1. Ne pas faire de piscine. 2. Venir en hiver. Et 3. Écrire dans le journal local, le Villefranchois.
Le Villefranchois, qui est le journal de tous les Aveyronnais.
Une série de portraits qui mélangent les gens célèbres et ceux d'ici.
Oui, absolument. Parce que quand on arrive de Paris, particulièrement de Paris... et qu'on a fait l'erreur de montrer un peu sa tronche dans le poste, je peux vous dire que ça, c'est très mal vu. Hein.
Ah oui ?
Il ne faut pas la ramener. Il faut le jouer profil bas. Bon, donc, si vous êtes là, par exemple, le 7 janvier, que vous rentrez dans le bar le matin, ou le 7 janvier, les mecs, là, ils disent « Bon, ça va, il est sérieux.
Hein. » Ah oui ?
Bon, la piscine, bon, non, j'en ai pas.
Et pourquoi pas de piscine ?
D'abord parce que, je vous dis, c'était d'abord à cause de ça au départ, bon. Je pense
pour pas
peut-être
faire prétentieux, c'est ça.
Oui, le côté. Oui, et puis ça fait vacances, ça fait je suis là, je passage. Non, non, moi je vis là.
Ouais.
Et puis c'est tout. Ouais. Voilà. Donc je surtout pas. Bon, remarquez, je pense à en faire une petite là.
Ah.
Oui, parce que mes enfants ils commencent à râler avec ça.
Mais
bon,
vous dites encore une petite. Vous n'osez pas y aller franchement.
Ah non, non, ça sera une petite, juste pour se tremper. Hein. C'est pas question de nager, surtout pas de sport, c'est très mauvais pour la santé.
Mais qu'est-ce que vous faites l'hiver dans l'Aveyron?
Mais je travaille tout le temps, mon ami, tout le temps, parce que si vous voulez, je suis pour les seniors. J'ai horreur de ce mot senior. Comment on peut dire une bêtise pareille? Je ne suis pas senior, je suis vieux. Faites pas chier. Donc, quand on est vieux, il faut surtout jamais s'arrêter.
Ouais.
Quand on a fait comme moi des métiers qu'on avait envie de faire, bien sûr. Hein, quand on a fait juste survivre ou vivre, je comprends qu'on arrête. Mais moi, Si vous me mettez à la retraite, je suis mort dans la seconde. Alors là-bas, qu'est-ce que vous voulez ? J'ai une paix royale et je peux faire mes expositions, mes conférences partout et puis mes livres et tout. Je n'arrête pas. Je n'arrête pas. Par exemple, tous les jours, je suis sur Instagram. J'ai une page Instagram avec une photo par jour et un texte, mais un vrai texte. Parce que ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est que Instagram, au départ, c'est un truc de mots. Mais hein, il faut un selfie, ils mettent hashtag, ils se barrent. Tandis que là, moi, je raconte vraiment des histoires. Puis c'est dur, hein, parce que c'est court, il n'y a qu'une page. Ah, j'adore ça. Mais alors, ça marche du feu de Dieu. Bon, bah, ça vous occupe. Hein. Ça, plus écrire des livres. Ouais. Donc, c'est idéal de pouvoir fabriquer soi-même son carcan de travail, quoi. Ouais. Voilà, donc c'est ça que je fais tout le
temps. Et donc ça vous a fait, les gens vous ont accepté, vous avez l'impression d'être avéronnais.
Oui, parce qu'on est, d'abord, l'avantage d'écrire dans le journal, c'est qu'on devient journaliste. Ouais. Chez les journalistes, bon, il y a maire, curé, journaliste. Bon, donc, voilà, ça c'est un avantage, puis ça m'a permis de rencontrer des gens. Sans ça, je ne les aurais pas vus, parce qu'à part les gens des marchés, je vois très peu de monde.
Donc vous avez fait des portraits de qui
de... Oui, de tout, bah, du boucher, de Villefranche, de la Mercière, tout ça. Puis après, j'en ai fait un livre, qui s'appelait d'ailleurs « Loin de Paris », dans lequel j'ai mélangé le boucher de Villefranche avec Alain Delon. Ensuite, il y avait la Mercière, ensuite Françoise Hardy. Donc ravis, c'était très marrant. Oui, parce que je les traitais comme il se doit, c'est-à-dire à la hauteur de ce qu'ils sont. De même que c'est ce que j'ai fait dans mon musée, parce que c'est parler à un mec qui a un musée quand même.
Ouais, bravo.
Non, vous, j'aimerais. Non, j'aimerais.
Excusez-moi, je m'incline.
Bon. Non, mais plus, je suis même pas mort. Attends, j'ai un musée, je suis même pas mort. Dans le village de Villeneuve, magnifique village médiéval, j'ai une bâtisse, mais alors, de 7 étages avec 200 tirages des années 60, ce qui fait que les gens viennent de partout. Hein, et comme en plus, j'ai une autre galerie que j'ai fait.
Et ça n'attire pas les crétins, comme vous disiez tout à l'heure.
Ils sont peut-être des crétins, mais ils passent. Ce n'est pas les gens qui restent, donc ce n'est pas grave.
Ouais, puis ils achètent peut-être.
Non, ce n'est pas tellement ça, parce que ça ne coûte pas grand-chose. Mais c'est merveilleux, si vous voulez, qu'il y ait. D'un côté, j'ai ce musée. De l'autre, j'ai une galerie que j'ai faite qui s'appelle Arrêt Encadrement pour montrer les photos des années 90. Ce qui fait qu'il y a des gens qui arrivent d'Angleterre, de Belgique, de Suisse. Et de toute la France, il voit dans un truc, il voit Johnny Hallyday, Mick Jagger, dans l'autre, il voit Yves Saint-Laurent et Karl Lagerfeld, ils n'en croient pas leurs yeux, les mecs. Donc, c'est drôle parce que c'est un petit village, en réalité. Et là, ça a apporté beaucoup à ce village, donc ça a été pour moi une façon de leur renvoyer l'ascenseur.
Alors, vous parlez beaucoup des Aveyronnais, mais est-ce que vous pouvez les décrire ? Est-ce qu'il y a un caractère Aveyronnais ?
Non, mais ça, c'est typiquement parisien, ça. Il n'y a pas de caractère. Vous voulez dire physique ou
dans la mentalité, la psychologie, la mentalité de l'Aveyronnais.
Oui, écoutez, l'Aveyronnais de base a tendance à attendre que le voisin meure pour acheter sa terre d'à côté. C'est clair, c'est son occupation numéro un.
Et c'est pour ça qu'ils vivent très vieux.
Très vieux, ils se bagarrent les uns les autres à vieillir le plus possible pour faire chier l'autre. Non, mais c'est vrai, c'est des gens, ils dépensent pas, hein.
Non.
D'ailleurs, ils sont extrêmement travailleurs. Vous savez bien qu'à Paris, tous les
la
restaurants...
Limonade.
Bah oui,
la limonade.
Tous les restaurants, ils ont travaillé, les mecs.
On en parlera, hein. les bougnards.
Ouais. Ah ouais, ils sont partout. Ouais. Mais ils bossent. Il y a même à Paris, il y a une maison de l'Aveyron qui est extraordinaire. Parce qu'il y a tous les mômes qui viennent de là-bas et qui vont à Paris, ils sont reçus là, hein. Ils sont reçus, ils ont une chambre, on leur donne du boulot et tout.
Ça veut dire qu'on s'entraide entre Aveyronnais,
absolument.
Ah oui.
Absolument. Et c'est exactement comme quand on est, je sais pas, chinois en Amérique ou
et ça continue, ça.
Ah ben bien sûr que ça continue. Ouais. Ah oui, ça continue. Parce que moi, je me souviens très bien que quand j'étais en Amérique, fallait surtout pas être français. Je veux dire, vous voyez, que ce soit des Espagnols, des Allemands, des Juifs, des Chinois et tous les mecs, ils s'entraident. Les Français, non. Ils se réunissent de temps en temps pour dire du mal de la France et de ses impôts, c'est tout. Non, pas du tout pareil. Hein.
On continue avec vous pendant toute cette heure jusqu'à 17h sur Europe 1 à explorer l'Aveyron. Dans un tout petit instant, nous serons avec Nathalie Hellal qui va aller fouiner dans l'histoire de l'Aveyron à la recherche d'histoires fortes, croustillantes, passionnantes. À tout de suite sur Europe 1.
Je me suis perdu.
Un petit Florent Pagny pour se détendre avec Bienvenue chez moi, un titre sorti en 1995. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Philippe Googler.
Et nous sommes à la découverte de l'Aveyron jusqu'à 17h sur Europe 1, avant de partir en Mongolie tout à l'heure de 17 à 18. Et Nathalie Elal, vous êtes penchée sur l'histoire sans doute du couteau le plus célèbre de France, voire du monde.
Oui, parce qu'il est né dans l'Aveyron, ce couteau à Laguiole, exactement. Alors, ouais. Laguiole, c'est un petit village de montagne.
Laguiole ou Laguiole ?
Laguiole.
Laguiole. Laguiole. Alors on
excusez-moi, oui, je me pose des questions.
Je crois qu'aujourd'hui, ces petits cours de prononciation.
C'est ça.
Je suis désolé. Mick Jagger.
Je prends note.
Bon, en tout cas, on reconnaît immédiatement ce couteau parce que son ressort est orné d'une abeille.
Ouais. Et pourquoi une abeille ?
Alors, la légende raconte que Napoléon Ier avait autorisé les habitants de la ville de Laguiole à porter ce blason en signe de reconnaissance de leur bravoure. Mais il y a aussi, je vous rassure, une autre explication qui serait une déformation de langage. Parce que, en Languedoc, abeilla signifie abeille. Et c'est un mot proche phonétiquement du lobéro qui désigne une virole d'assemblage des couteaux. C'est un petit peu
une
technique. Une virole d'assemblage, une façon d'assembler le couteau. Bon, vous n'êtes pas dans la coutellerie, pas encore.
Je me fais encore engueuler là.
Oui.
Si je
Moi, je n'ai pas une forge, mais je peux vous dire qu'il y a une virole d'assemblage pour les couteaux. Alors, l'abeille, elle est apparue tardivement, mais certains vieux laïoles, paraît-il, comportent un visage ou un trèfle à quatre feuilles, ouais, ou encore une coquille Saint-Jacques en référence au chemin de Saint-Jacques de Compostelle qui traverse l'Aubrac.
D'accord.
Et alors, il est très important de rappeler qu'ils ont récupéré leur nom. Parce que laïole, ça se fait bien. À un moment donné, ça partait dans tous les sens, en Chine et tout ça.
Ils n'ont pas protégé. Exactement.
Non, c'est Laguiole, c'est là.
Ouais. Bonne intervention.
Mais c'est aussi fabriqué à Thiers, dans le Puy-de-Dôme, pas seulement à Laguiole. Hein.
Vous êtes venu pour m'énerver, là, c'est ça?
Je vous laisse.
J'aime bien l'exactitude des données.
C'était le duel Jean-Marie Perrier, Nathalie.
Un partout.
Et donc, qu'est-ce qu'il a de spécial, ce laïeul ?
Alors, sous contrôle de Jean-Marie, il est né d'un mélange de deux modèles, le capuchadou et le navaja. Alors, le capuchadou, qu'est-ce que c'était ? Mais c'était un couteau qu'on utilise en Aveyron, avec une lame fixe et une pointue emmanchée sur un morceau de bois, tandis que le navaja, c'était un couteau de poche pliant, avec un cran d'arrêt, que les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle auraient rapporté d'Espagne. C'est cela ?
D'accord.
Oui, peut-être. En tout cas, le premier coutelier à en fabriquer à Laguiole dans sa forge, c'est un certain Casimir Moulin en 1828. Et le Laguiole, il a évolué en fonction des besoins des populations. Par exemple, vers 1840, c'est l'apparition d'un poinçon, écoutez-moi bien, c'est barbare, mais pas tant que ça, qui servait à percer la panse des herbivores gonflés d'avoir mangé trop d'herbes tendres, ce qu'on appelle la météorisation.
Qui peut être mortel pour les
Absolument.
Moutons.
Absolument, je vous explique, quand les vaches ou les moutons mangent trop d'herbe, ouais, bah ça fait une accumulation de gaz dans la panse. Ils peuvent mourir parce que sinon, il y a une asphyxie de l'animal. Ça va comprimer les poumons. Et autrefois, eh bien, les bergers avaient un couteau long et fin qu'on appelait un trocard. Ils perçaient comme ça la panse de l'animal.
Ah, c'est vif.
Mais j'imagine que ça leur sauvait la vie.
T'inquiète pas, c'est pas près d'arriver cette année. Hein.
Ouais, ça peut arriver que l'aligot, il paraît.
Avec la sécheresse, que c'est dur. Ouais.
Et puis, il y a eu ensuite, en 1880, l'apparition du tire-bouchon sur le Laguiole, alors réclamé justement par les garçons de café aveyronnais, partis travailler à Paris. Hein. Toujours, on revient à notre limonade qu'on évoquait tout à l'heure, merci. Alors, il y a aussi la croix des bergers, hein, le symbole en miniature de la Sainte Croix sur le manche, parce qu'on plantait le Laguiole dans le pin, et ça jouait un rôle pour la prière de ceux qui partaient pour plusieurs mois en transhumance avec leurs troupeaux loin des lieux de culte.
D'accord. Et ils sont donc fabriqués ?
Eh bien, généralement, je vais énerver Jean-Marie, donc à Thiers dans le Puy-de-Dôme ou à Laguiole.
Je me casse.
Oh non, pas tout de suite. J'ai encore besoin de
c'est
vous.
C'est une façon de dire qu'il se soumet, Nathalie, vous devriez.
Je suis soumis.
Est-ce que vous êtes d'accord, Jean-Marie, avec cette tradition ? Le connaisseur, en refermant son couteau, évitera soigneusement de faire claquer la lame pour ne pas abîmer le fil, ni endommager le ressort. Et comme ça, il va respecter le proverbe aveyronnais, ressort silencieux vivra vieux. Vous connaissez ?
Non.
Eh ben voilà, je vous ai appris quelque chose aujourd'hui. En tout cas, le patriarche était le seul autorisé à faire claquer la lame afin de demander à la famille de débarrasser la table. Donc si vous entendez ce petit bruit de claquement, vous débarrassez la table.
Ah, d'accord.
C'est comme ça que ça se passe chez moi, mais j'ai pas de Laguiole.
C'est bien.
Eh ben,
on apprend des tas de trucs, hein. C'est super. Merci Nathalie. Vous avez un grand homme que vous avez gardé en magasin.
Oui.
Alors c'est Aveyronnais.
Alors c'est la petite histoire d'un grand homme au sens propre du terme. C'est l'histoire du géant aveyronnais Henri Cotte. 2,30 m 160 kilos, pointure 62.
2m30,
c'est pas possible. Si, si, c'est comme ça, une anomalie génétique probablement. Ses bras ouverts mesuraient 2m33 d'une main à l'autre. Le plus grand homme de France, un recordman. Alors, il naît le 30 janvier 1883, c'est le rejeton d'une famille paysanne de 6 enfants, au hameau du Cros, ouais. Une petite commune de Mounès-Proencou. Il pèse 8 kilos à la naissance, donc on le baptise immédiatement parce qu'il survit.
Bon, 8 kilos à la naissance.
Oui, absolument, on pensait qu'il ne survivrait pas.
Mais comment elle a fait la maman?
On ne sait pas surtout qu'elle, elle mesurait 1m56, vous imaginez?
Non.
Ah bah si. Et le père 1m53. Bah si.
Mais il l'a retourné, le pauvre.
Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a été baptisé, mais il a réussi quand même à survivre. Il grandit, c'est le cas de le dire. Il devient apprenti chez un cordonnier. Puis ensuite, il est convoqué. Vous savez, il y avait ce qu'on appelait les conseils de révision pour les gens qui devaient faire le service militaire pour devenir conscrit. Et là, il est repéré littéralement par la presse. La presse va s'intéresser à lui, ça devient une attraction. Les journaux vont raconter par exemple ses menus, son appétit d'ogre. Par exemple, il engloutissait une douzaine d'œufs pour le petit déjeuner et pour le déjeuner, 4 kilos de viande et 3 kilos de pain. Je sens qu'Olivier est déjà sur le bord de la route.
Oui, là, j'ai jamais réussi à suivre. J'abandonne.
Incroyable.
Donc, il abandonne son métier de cordonnier parce qu'un impresario qui travaille pour les cirques Barnum vient lui faire miroiter que devenir un phénomène de foire est quand même plus rentable que réparer les godasses. Bon, et puis en quelques semaines, il devient le géant le plus parfait, le plus beau et le plus impressionnant à voir. Je vous harangue la foule, là, comme faisaient les forains dans le temps. Bah oui, il devient vraiment l'attraction de toutes les foires régionales. Il va s'exhiber partout. Le public paie pour se faire photographier à ses côtés. C'était pas encore le selfie, mais presque. Et sa renommée grandit. Il va voyager absolument partout. Il traverse la Méditerranée. Il va aller en Angleterre, au Canada, partout. On va même essayer, d'ailleurs, en Angleterre, de lui trouver une épouse à sa taille. Mais peine perdue, on n'a rien trouvé. En tout cas, sa vie, il va la passer tout entière en tournée, beaucoup donc en Angleterre et aux États-Unis. Vous savez que les anglo-saxons ont une prédilection pour ce qu'on appelle les monstres de foire. Alors il va être transformé aussi. Son impresario décide de le rebaptiser Joseph Dussorc. Il lui fait pousser une barbe, endosser...
Pourquoi
une...
Joseph Dussorc?
En fait, c'est l'anagramme de Ducrot, qui est son hameau d'origine dans l'Aveyron. Ah. Il lui fait pousser une barbe, endosser une tenue de tambour major avec un immense chapeau de 36 cm pour qu'il devienne encore plus grand. Il va mesurer 2,63 m grâce au chapeau.
Lui, c'est, j'ai l'impression que ça va finir mal.
Vous savez que j'ai une passion pour les histoires qui finissent mal. Alors effectivement, le pauvre homme mais épuisé par le rythme intensif de ses voyages. Il a aussi des problèmes de colonne vertébrale et d'articulation. Et là, il y a quand même deux versions un peu troubles. Soit, eh bien, il serait mort de sa belle mort, enfin épuisé par cette vie un peu particulière, soit carrément assassiné, parce que c'était un noctambule, il adorait sortir en boîte de nuit. Donc il serait mort à Lyon, assassiné pour un problème, une dispute d'argent, dans un cabaret qu'il fréquentait à Lyon.
Non, mais il était peut-être grande partout aussi. Hein. On l'appelait la théière à Trois-Biers, peut-être.
L'inverse de Toulouse-Lautrec qu'on appelait la cafetière, lui.
Très bien, écoutez, je vous laisse entre spécialistes.
Dans la série Pourquoi Ronsard et
je pas penserais pas qu'on irait vers un concours.
Il est désopilant, ce Jean-Marie.
Merci Nathalie pour cette histoire passionnante et étayée. A tout de suite sur Europe 1 avec les bons plats de l'Aveyron et Olivier Pouls de retour parmi nous. Et on va être sage. A tout de suite.
Philippe Googler sur Europe 1.
Tout à l'heure, après le flash de 17h, nous partirons sur les terres de Gengis Khan, qui était à la tête d'un empire incroyable, gigantesque, l'empire mongol. On découvrira ça ensemble. Pour l'instant, nous sommes dans l'Aveyron, avec toute la bande de voyageurs, avec Jean-Marie Perrier, qui a posé ses valises depuis 25 ans dans l'Aveyron.
Absolument.
Qu'est-ce que vous aimez manger là-bas?
D'abord, je fais la cuisine beaucoup, parce que comme je vis tout le temps chez moi, donc ça frissonne toujours. Il y a des bouillons, je fais beaucoup de...
Des bouillons?
Oui, beaucoup de bouillons. C'est-à-dire que j'ai un principe, il y a le feu, hop, on met le truc au-dessus, et je mets de l'eau qui boue tout le temps, et puis hop, ou un poulet...
Les fans de légumes, les restes de viande, tout ça.
Et tout ce qui est vert.
Tout ce qui passe.
Oui. Tout ce qui est vert, je le mets dedans, je veux dire, un douanier passe, il se retrouve dans mon bouillon.
Et ça, a quel goût, un bouillon de douanier?
Je ne peux pas vous le définir tellement c'est bien. Non, mais avec les herbes. Non, mais moi, j'improvise comme ça tout le temps. Ouais. Ou alors, je le joue extrêmement moderne, c'est-à-dire juste des salades très légères, parce qu'à un moment, il faut un peu... Hein, faut calmer le jeu quand même.
Olivier Pouls, vous êtes notre chroniqueur gastronomique. Alors l'Aveyron, vous, c'est la Ligo, je crois, qui vous émoustille.
Oui, entre autres, évidemment, on va en parler. Mais pour manger la cuisine aveyronnaise, bistrotière en tout cas, il n'y a pas besoin d'aller en Aveyron, puisqu'à Paris, en allant dans un bistrot, vous avez de grandes chances de manger de la cuisine héritée en tout cas de l'Aveyron, puisque l'histoire des bougnats au XVIIe siècle, cet exode rural massif des Aveyronnais vers Paris, a changé la configuration de notre gastronomie, il faut le savoir. Alors ces bougnats, ils arrivent au XVIIe siècle parce que leur département n'est pratiquement pas attractif, il n'y a pas grand-chose à y faire, et ils viennent jouer les porteurs d'eau à Paris. À l'époque, il n'y a pas l'eau courante, donc avec des seaux, ils montent les étages et ils vont livrer l'eau aux étages.
C'est comme ça, c'est le début des Aveyronnais à Paris.
C'est le début des Aveyronnais à Paris, c'est leur premier métier. Et puis, petit à petit, les réseaux d'eau arrivent, donc ils se recyclent, ils vendent du charbon. Alors, pendant que monsieur vend le charbon, madame, elle, sert des coups à boire, elle vend de la limonade. Et petit à petit, eh bien, ils vont ouvrir des cafés, des bistrots et créer un empire. Alors, un certain nombre de grandes familles aveyronnaises sont aujourd'hui à la tête de multiples établissements qui sont parisiens, plutôt des établissements de type bistrot ou des brasseries un peu chic. Si on veut de la grande cuisine aveyronnaise, on en parlait tout à l'heure, on va là chez Michel et maintenant son fils Sébastien Brasse, qui est lui l'emblème de la grande gastronomie aveyronnaise. Mais il faut savoir qu'à Paris, aujourd'hui, on est très héritier de cette cuisine aveyronnaise. Et d'ailleurs, à Paris, donc beaucoup de ces bistrots, on va vous proposer le fameux aligot saucisse, l'incontournable.
Oui, qu'on adore.
Oui, mais il y a aussi le problème, c'est que en France, partout dans la campagne, je vois de française, les gens dans les cuisines maintenant, dans les restaurants, essaient de faire de la cuisine comme ils pensent que c'est à Paris, c'est-à-dire
Un peu chichiteuse.
Oui, avec trois asperges qui dansent le tango, 5 gouttes de vinaigre, tu vois, avec bonne continuation et toutes ces conneries. Alors qu'en réalité, ce qui est fou, c'est qu'à Paris, les restaurants qui marchent, c'est des restaurants de terroir.
Mais parce que les Parisiens ont envie de ça aussi.
Bah, bien sûr.
Évidemment, on a envie de se retrouver autour d'un aligot saucisse.
La truffade.
Ou la truffade, qui est une espèce de cousin, finalement, de l'aligot. Ah,
c'est pas léger. Hein.
C'est pas léger.
Alors, on rappelle ce que c'est, la truffade.
Alors, la truffade, c'est de la pomme de terre avec de la tome, mais qui n'est pas...
De
la tome avec Mick Jagger.
Troisième leçon de prononciation.
On dit pas de la tome, on dit de la tome.
Non, on dit de la tome en Aveyron.
Non, je sais pas. Non, ça, franchement, je sais pas.
Bon, écoutez, on fera le débat. Alors, c'est donc le cousin de l'aligot. Moi, j'ai une petite préférence pour l'aligot. L'aligot, qui est un plat qui, lui, naît au XIIe siècle. Ouais. À l'époque où le chemin de Saint-Jacques de Compostelle est emprunté par de nombreux pèlerins, il y a beaucoup de monastères dans l'Aveyron, et les pèlerins frappent à la porte des monastères et disent aliquid, en latin à l'époque, qui veut dire à manger. Et il y a une tradition d'hospitalité, et donc beaucoup de ces moines ouvraient leurs portes, accueillaient les pèlerins et leur servaient. Alors à l'époque, ce n'était pas de la pomme de terre, c'était du pain. Ouais. Un pain qu'on avait mélangé à du fromage fondu. Alors ça tient bien au corps et ça permet de reprendre le chemin. Voilà. Et puis quelques années plus tard, il y a eu de mauvaises récoltes de blé. Le pain se faisait plus rare, plus cher, et la pomme de terre est arrivée. Et on s'est dit que finalement, mélanger la tome ou la tome avec la pomme de terre, ça donnait quelque chose de sympathique en rajoutant un tout petit peu d'ail dedans. Et puis surtout, l'aligot, le secret, c'est de savoir le réaliser, c'est-à-dire le faire filer. Oui. Et ça, c'est assez compliqué. Donc, il faut réaliser une purée de pommes de terre, il faut rajouter le fromage, le faire fondre, et puis surtout ne pas arrêter de tourner, parce qu'à un moment, vous allez voir, il y a une incorporation un peu magique de la pomme de terre et du fromage, et ça se met à faire de grands fils, comme ça, et c'est à ce moment-là qu'il faut le servir très rapidement. Il y a un petit tour de main qui n'est pas
facile.
Et
si on n'a pas le tour de main, il se passe quoi ?
Eh bien, ça fige, et donc vous avez un aligot qui ne file pas, et donc pour un Aveyronnais qui n'est pas présentable. Il faut qu'il file, et qu'il file de manière spectaculaire. Et la mère, par exemple, de Michel Brasse a continué à la faire et à le servir dans leur restaurant qui était 3 étoiles. Et quand vous alliez manger chez Brasse, vous ne pouviez pas partir de là sans avoir eu à un moment un petit bol d'aligot que sa maman continuait à faire selon la grande tradition. Voilà, ça, c'est évidemment l'incontournable.
Ouais. Alors ça, on ne peut pas ne pas parler de fromage quand on est en Aveyron. Et il y en a un qui est particulièrement célèbre, c'est le Roquefort.
Bah, évidemment, connu depuis l'Antiquité. Il y a une petite légende d'ailleurs qui explique la naissance du Roquefort. C'était un petit berger qui, à l'Antiquité, aimait courir les jeunes filles. Et il se baladait, il était avec son petit casse-croûte, et son casse-croûte était un fromage de brebis frais. Et il voit passer une jolie fille, évidemment il ne peut pas résister, et il planque son petit casse-croûte dans une grotte en disant « je viendrai le manger un petit peu plus tard ». Et en fait, son vagabondage derrière cette fille dure un petit peu plus longtemps que prévu. Il revient quelques jours plus tard et dit « bon ben maintenant, mon petit casse-croûte ». Il le retrouve et le fromage, il avait commencé à moisir.
Ah, mais c'était plus qu'un vagabondage, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant...
Bah, ça, j'ai pas tous les détails.
C'est pas une pastorale.
Vous demanderez à Jean-Marie ou à Nathalie, ils doivent savoir ce qui s'est passé. Moi, je me suis uniquement intéressé au fromage. Qui donc avait moisi, il a décidé de le goûter et en fait, il a trouvé ça délicieux. Ouais. Et la légende dit que c'est là qu'est née voilà, cette tradition de faire moisir, parce qu'en ouais. réalité, c'est ça, ouais. Ouais. du fromage dans les caves, dans les grottes de Roquefort.
Heureusement qu'il a eu la fille avant, quand même.
Oui, parce que question Alain, après, c'est beaucoup plus compliqué de la convaincre. Et donc, voilà, c'est un fromage qui est connu, évidemment, dans le monde entier, qui est une spécialité unique et qui est protégée. C'est l'une des premières, c'est la première appellation d'origine contrôlée à l'époque pour un fromage en France. Et puis, toujours affiné, évidemment, selon les règles de l'art, dans les caves de Roquefort-sur-Soulzon, avec un lait cru de brebis. Voilà, c'est ce qu'il faut absolument pour obtenir du Roquefort.
Merci Olivier. On apprend des trucs aujourd'hui. J'ai mon carnet rempli. C'est
formidable. C'est tout, mon vieux. C'est tout.
C'est dingue, c'est dingue, dingue.
C'est ça d'avoir des chroniqueurs.
Des têtes
exceptionnelles.
Tout de suite sur Europe 1 avec les bons tuyaux de Jean-Bernard Carrière.
Va falloir vous aligner, Jean-Bernard. Je suis en forme qu'Olivier, ça va pas être sympa.
Oui, parce que la barre est haute. Ouais. Et tout ça sous le contrôle de Jean-Marie Perrier, évidemment.
Et de Nathalie Hélal.
Europe 1, Philippe Googler.
Nous voyageons dans l'Aveyron aujourd'hui avec Jean-Marie Perrier jusqu'à 17h. Et puis avec Jean-Bernard Carrier qui va nous expliquer les bons plans, les bonnes astuces, les bons endroits pour découvrir l'Aveyron de la meilleure façon. Jean-Bernard Carrier, du guide Lonely Planet, évidemment. Voilà. Alors, on a parlé de Roquefort tout à l'heure, côté bon petit plat, enfin bon fromage. C'est aussi un lieu qui se visite, le Roquefort.
Eh bien oui, justement, c'est une des principales attractions touristiques du département, Roquefort-sur-Soulzon. Donc, on ne vient pas simplement pour déguster ou pour acheter le Roquefort sur place. On vient aussi pour visiter les galeries où il est fabriqué. Et justement, sur les 7 fabricants de Roquefort qu'il y a sur place, il y en a 3 qui proposent des visites de leur cave d'affinage. Il y a Gabriel Coulet, Papillon et Roquefort Société, les 3 principaux. Alors, en fait, ce qui se passe, moi, je l'ai testé, c'est assez impressionnant. On descend dans ces fameuses caves qui se trouvent... En fait, c'est des grandes galeries qui sont sous la montagne et qui ont des petites fenêtres d'aération qu'on appelle des fleurines. C'est les aérations naturelles. C'est ça qui permet justement à l'affinage de se faire de manière très particulière dans ces galeries. Donc, on est vraiment dans les entrailles de la roche, dans les galeries aménagées sous ce plateau. Il fait 10 degrés seulement environ. Ça ferait du bien en ce moment par cette canicule. Ouais. C'est sombre, c'est impressionnant. Il y a un océan de Roquefort qui sont en phase d'affinage, qui s'étale devant vous. C'est une belle expérience. Et ensuite, on ressort de là. Il y a un guide qui vous fait la visite.
Et ça sent quoi en bas ?
Mais ça sent pas très fort, justement.
Ah bon ?
Non, non, c'est plutôt... comme c'est très ventilé, on n'a pas ce goût acre et fort que peut avoir le Roquefort. Et ouais. ensuite, bien sûr, on termine en surface par une dégustation.
Jean-Marie Perrier, vous aimez le Roquefort ?
Mais absolument. Mmh. Enfin, vous rigolez ou quoi ?
Il ne veut pas se fâcher avec les Aveyronnais.
Ah non, non, il est prudent.
Non, mais vraiment, je vous assure, les marchés là-bas, mais c'est un enchantement. Il y a des marchés partout. Je
avec,
fais que ça.
Avec Roquefort, ouais.
Et pratiquement que là que je ne vais que là, que dans les marchés.
Mais
les
marchés,
tous les
il y en a beaucoup en France. Il ne faut pas forcément être dans l'Aveyron pour découvrir les marchés.
Ah oui, non, mais c'est particulier.
Pourquoi ?
Parce que c'est Aveyronnais.
Bon, d'accord. Alors, il y a un endroit dans l'Aveyron qui est absolument magnifique. Je pense que c'est un des plus beaux spectacles naturels en France. C'est les Gorges du Tarn.
Mais oui, et les Gorges du Tarn, comme leur nom ne l'indique pas, sont à cheval sur l'Aveyron et la Lozère. Ouais, c'est pas dans le Tarn, bien qu'il y ait un morceau également dans le Tarn. Alors en fait, ces gorges, ça ressemble à quoi ? Vous devez les connaître, évidemment, Jean-Marie, parce que c'est très photogénique. C'est un immense canyon qui fait 600 mètres de profondeur. J'ai bien dit 600 mètres, Philippe.
Ouais, hein, c'est vertigineux.
C'est pas une petite vallée de rien du tout.
Avec des petits villages accrochés sur les côtés. Donc c'est
vraiment,
magnifique.
C'est très encaissé. C'est un paysage très austère. En même temps, il y a a plein de verdure autour. Et au fond du canyon, vous avez cette fameuse rivière Tarn qui serpente, qui coule.
La rivière comment ?
Le Tarn.
Ah, non, je voulais le réentendre. C'est la façon de l'exprimer qui m'intéressait.
Ça me met en colère. Il n'y a rien à faire. On peut rien.
Je sais pas pourquoi.
Je pense qu'il veut se venger de la prononciation qu'il a eue tout à l'heure.
Mais alors, et à côté du Tarn, il y a une petite route qui s'appelle la D907. Je suis sûr, Jean-Marie, que vous l'avez parcourue plusieurs fois. Cette petite D907, elle suit la rivière et elle traverse ces fameux villages hors du temps que vous venez de mentionner, Philippe. Ouais. Et il y a plein de spots de baignade. Alors, comment on fait pour profiter ? Parce qu'il y a beaucoup de monde en ce moment. C'est vrai qu'en été, cette unique route, elle est saturée. Moi, je vous conseille plutôt de faire un petit morceau à pied. Il y a un beau sentier qui longe cette rivière. Ou alors, une autre option, c'est à vélo. Ça vous permettra de vous arrêter à peu près où vous voulez et peut-être faire un pique-nique, mon cher ami Olivier.
Je on sais sort que vous avez... le Roquefort.
Et on se fait un petit pique-nique au bord du Tarn. Voilà. Et en plus, il y a un service de bus, c'est très bien organisé, un service de navette dans la vallée qui peut vous remonter. Vous n'êtes pas obligé de revenir sur vos pas. Moi, ce que j'ai préféré quand même comme expérience, c'est le kayak. Ouais. Ça, c'est vraiment
ah
le
oui,
must.
Ça, c'est bien.
Vous glissez dans cette vallée, sur la rivière Tarn, vous vous arrêtez dans une petite crique et vous faites votre petit pique-nique.
C'est formidable. Cela dit, je ne fais rien de tout ça car le sport étant très mauvais pour la santé.
C'est une balade, Jean-Marie. On se laisse glisser le long des flots du Tarn.
Il y a un truc qui est super le long du Tarn, c'est qu'il y a la route d'un côté, le Tarn, et de l'autre côté, il y a des petits sites, des petits endroits totalement préservés de la foule, puisqu'il faut traverser la rivière pour y aller. Et vous passez la rivière en kayak et vous accédez à ces endroits. Donc, c'est des petits hameaux. Et c'est magnifique, vous êtes bien, vous y resteriez 3 semaines.
Oh oui, au moins.
25 ans.
Dans l'Aveyron, alors il y a pas mal de richesses. Alors aussi en sous-sol.
Ah bah oui, l'Aveyron c'est beau au-dessus et c'est beau en dessous, dedans, dans ces fameux plateaux calcaires. Un petit voyage au centre de la Terre, Philippe, ouais. ça vous dirait. Comme dans le roman de Jules Verne, bah, c'est possible dans les fameuses causses. J'adore les causses, hein, ça vous avez bien compris. Ces plateaux calcaires qui sont troués comme des gruyères. Et c'est dû à quoi ? Bah, à l'érosion, c'est l'eau.
Il n'y a pas de trou dans le gruyère.
Ah oui, c'est vrai, j'ai fait encore cette erreur, hein, mais c'est pas grave. En fait, ça, l'eau a vraiment creusé des cavités naturelles. Ça fait 10 immenses cavernes souterraines et certaines se visitent, notamment la Veine Armand. Ça, oui. C'est ma préférée.
Ah,
elle est géniale, à plusieurs dizaines de mètres sous terre. Un univers féerique. C'est la plus grande concentration au monde de stalagmites. Stalagmites, c'est les colonnes qui montent. Il y en a qui font jusqu'à 30 mètres de haut à l'intérieur de cette Veine Armand. Et franchement, on a l'impression d'évoluer dans une forêt vierge de pierres minérales. Ces stalagmites, elles ont des formes bizarres. Certaines ont des formes de crêpes empilées, d'autres ressemblent à Lucky Luke. D'autres, on dirait des dindons, des vautours, des moutons, des grandes orques, des palmiers. Bref, c'est un univers complètement dépaysant, extrêmement mystérieux, je trouve. Et certaines ont plus de 800 000 ans. Donc il y a un côté à la fois histoire et minéral. Et puis cette ambiance aussi, avec une acoustique très particulière qui fait qu'à certaines périodes de l'été, il y a des concerts qui se tiennent dans cette grotte. Et puis bien sûr, une fraîcheur qu'on aime bien. Il fait 12 degrés dans ces grottes. On y irait bien maintenant, tiens.
Ouais. Merci beaucoup Jean-Bernard pour tous ces bons tuyaux afin de pouvoir découvrir sereinement l'Aveyron. Jean-Marie Perrier, c'était un plaisir de vous avoir avec nous.
Oh, mais écoutez, le plaisir était partagé, mais je ne me casse pas, hein, je vous signale.
Ah, vous vous accrochez.
Bon, on vous emmène en Mongolie.
Si vous voulez, vous venez avec nous en Mongolie.
Je ne me casse pas, vous rigolez ou quoi?
Est-ce que je peux rappeler quand même que vous avez une expo à la Maison de la Photographie dans le village de Villeneuve?
Permanente.
Où vous exposez 190 tirages des années 60 avec toutes les années Yéyé, Johnny, Dutronc, enfin toute l'époque de Salut les copains.
Et même Mick Jagger.
Et même Mike Jagger. Qui restera un gros litige entre nous.
Absolument.
C'était un plaisir, Jean-Marie Perrier.
Merci
je vous mets
beaucoup.
Dehors.
Non, mais je suis très content qu'on ait parlé de l'Aveyron. Parce que c'est vrai, les gens n'en parlent pas, parce qu'ils ne savent pas où c'est en France. Vous pouvez demander ici. À chaque fois que je dis j'habite dans l'Aveyron, ils me disent mais c'est où ? Ça m'énerve.
Ah, oh, c'est parisien.
C'est à 1h30 de au nord de Toulouse.
Oui. Voilà, et c'est pas loin du viaduc de Millau.
Voilà.
On a tout dit. J'espère que vous aurez envie d'aller dans l'Aveyron, vous qui nous écoutez, parce que c'est une super région. Merci encore Jean-Marie Perrier. Dans un tout petit instant, après le flash de 17h sur Europe 1, nous partons donc pour le pays des steppes infinies, des chevaux en liberté, du désert de Gobi et de Gengis Khan. Nous irons en Mongolie. À tout de suite. Et si on partait deuxième heure, c'est l'été, il fait chaud, c'est le moment de voyager. Je vous emmène tous les jours au bout du monde. Décollage maintenant.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Je vous emmène dans le pays des steppes infinies. Des espaces où le regard jusqu'à l'horizon ne croisent aucune barrière, aucune limite. Nos yeux, chez nous, sont tellement habitués à voir des paysages avec des clôtures, des routes, des constructions, des interdictions de toutes sortes, qu'on ne fait plus très attention. Mais arriver là-bas, dans la Mongolie des steppes, c'est un choc. Il existe donc sur cette planète un lieu immense, couverte d'herbes rases, composée d'une infinité de petites montagnes plutôt rondes, douces comme des ballons, dans lequel vous pouvez avancer à l'infini, à droite, à gauche, au nord et au sud, sans que rien ne vous arrête. C'est une sensation de liberté inhabituelle, presque étrange. La Mongolie, c'est le pays du cheval. Des chevaux qui vivent en liberté au milieu de ces steppes immenses. Et je suis allé rencontrer des éleveurs lors d'un tournage des trains pas comme les autres. J'avais rendez-vous dans leur yourte. Une yourte isolée, perdue au milieu de la steppe, balayée par le vent. Je frappe et je vois apparaître deux jeunes hommes aux larges sourires, aux yeux pétillants, vêtus d'un étonnant mélange de vêtements traditionnels mongols, de casquettes Adidas et de bonnets branchés. Bonne nouvelle, ils ont plus de 600 chevaux à regrouper demain. Et visiblement, c'est leur ordinaire. Les chevaux sont en liberté, mais ils appartiennent à un riche propriétaire mongol. Et mes deux nouveaux compagnons sont un peu les bergers, les éleveurs. Mais évidemment, la question qui me taraude depuis un moment, c'est comment est-ce que je vais faire pour suivre ces hommes qui passent leur vie sur des chevaux, qui galopent pendant des heures et qui maîtrisent même des animaux quasi sauvages. Moi, quand je suis 10 minutes sur un mulet, je tiens à peine, j'ai mal aux fesses et j'en peux plus. Donc, je leur dis que j'ai un peu peur, que je suis pas à l'aise. Et c'est donc immédiatement la rigolade. Grosse rigolade chez les éleveurs. Il y a le jeune homme à la casquette qui me dit « Mais enfin, ne réfléchis pas, tu tiendrais même pas 5 secondes sur nos chevaux. C'est des chevaux de steppe, ils sont pas habitués aux gens de la ville comme toi. » Et il rajoute, de toute façon, nous, les chevaux, on va pas les chercher à cheval. Donc, je suis un petit peu surpris. Il dit, non, nous, c'est les motos. C'est beaucoup plus rapide, plus maniable et moins fatigant. Et c'est quand on doit attraper les chevaux qu'on les approche avec un cheval. Donc, je suis un peu soulagé. Et je découvre que les éleveurs de chevaux mongols passent le plus clair de leur temps à moto plutôt qu'à cheval. Dès le lendemain matin, me voilà donc à cheval sur une moto. On est deux par engin, on s'est dit que c'était plus sympa pour pouvoir bavarder pendant le périple. Et c'est juste incroyable. Une sensation de partir à l'aventure, librement, dans un paysage sans aucune limite. Nous partons chercher des chevaux qui sont tellement loin dans la steppe qu'on ne peut pas les voir. C'est une sorte de quête dans le vent, avec des éleveurs joyeux et un grand soleil, en plein cœur de la Mongolie. Alors les motos rabattent les chevaux gentiment en utilisant leur fuite perpétuelle. C'est une sorte de balai. Il s'agit de faire galoper les chevaux dans la bonne direction. Je vous avoue que suivre ces centaines de chevaux, les voir courir ainsi à l'infini dans des paysages sans limite, c'est pour moi un moment magique. Il nous faudra au moins 4 heures pour amener les chevaux au point voulu. Et ce sera un des petits moments de la vie que je garderai bien au chaud dans mes meilleurs souvenirs.
Europe 1, 16h-18h. Et si on partait ? Philippe Googler.
Nous sommes en Mongolie sur Europe 1 avec les chevaux dans les steppes infinies. Jean-Bernard, la Mongolie, on situe ça en Asie, mais on a du mal à bien le localiser géographiquement souvent.
On va dire que c'est à l'est de l'Asie centrale, on va la Russie au nord, ouais, et la Chine au sud. Voilà, c'est coincé entre ces deux pays, il n'y a aucune façade maritime, c'est un pays qui est complètement enclavé. Et surtout, il y a un chiffre, je sais qu'on n'aime pas trop les chiffres, mais je veux quand même en donner un qui sera très éclairant. 3 fois la France de superficie pour simplement 3,2 millions d'habitants.
Ah oui, il n'y a personne.
Il n'y a personne. C'est l'une des plus faibles densités de population au monde. Et avec des paysages, vous l'avez dit, très variés. Il y a de la steppe, de la montagne, type un petit peu sibérienne, un paysage sibérien. Et puis, il y a un grand désert, celui de Gobi, tout au sud, qui fait plus de 2000 km. Et puis, au niveau météo, c'est un pays aussi qui sort du lot. Les cieux les plus bleus du monde, pas un seul nuage pendant 300 jours de l'année. Ça, c'est vraiment incroyable. Et puis, un climat qui est lui-même adapté à ce côté extrême, ce côté très enclavé, continental. Il y a des amplitudes thermiques absolument incroyables. On passe de moins 40 degrés en hiver à plus 40 degrés en été. Pour la même région. 80 degrés de différence entre l'été et l'hiver. C'est impressionnant.
Ouais, c'est un pays un peu de tous les extrêmes.
Oui, on adore ça. C'est fort, c'est puissant, ça nous emmène.
Absolument. Nous sommes en ligne avec Marc Allot, qui est éditeur chez Transboréal et voyageur. Ça fait 20 ans, Marc, que vous parcourez la Mongolie. Je crois que vous avez fait au total 7000 km à pied dans ce pays. Et vous avez dit, et j'aime bien cette phrase, que vos premiers voyages en Mongolie s'étaient motivés par la volonté de vous confronter à la géographie du vide. Sacré programme. Oui. Bonjour Marc.
Oui, bonjour Philippe, bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, on va parler de la Mongolie avec vous, avec bien sûr tous nos amis grands voyageurs, Jean-Bernard Carrier, Nathalie Elal et Olivier Pouls. Parlez-moi, parce que c'est vraiment un endroit qu'il faut raconter et re-raconter tellement il est extraordinaire. De vos voyages à pied dans la steppe mongole.
En fait, pour savoir où je mettais les pieds lorsqu'il y a 20 ans, pour la première fois, je me suis rendu en Mongolie, pour savoir où je mettais les pieds, à mes yeux, le meilleur moyen, c'était de les mettre l'un devant l'autre. Et c'est ce que j'ai fait durant 2 années de marche sur 7000 km. Et c'est une démarche très simple. Hein. La marche, pour moi, est une démarche. Et du coup, elle s'associe bien à la simplicité du paysage que vous avez décrit, ouais. Qui est un paysage à deux couleurs, celle du ciel et puis celle de la paille, de la steppe. C'est un peu, comme vous le disiez, un pays d'extrême. Mais finalement, ces deux teintes du paysage, c'est un peu comme les deux extrêmes de la vie, le bonheur et le malheur. Alors, l'intensité avec laquelle, du coup, en marchant, on contemple le paysage, se mue parfois en prière, et c'est la raison pour laquelle, même si on marche des années, des milliers de kilomètres dans ce paysage qui ne change pas, on ne s'ennuie pas.
On ne s'ennuie pas dans cette solitude, parce qu'on peut marcher seul pendant des jours et sans rencontrer personne. Comment ça se fait qu'on ne s'ennuie pas dans ces paysages ?
Alors tout d'abord, je ne considère pas l'ennui comme quelque chose à éviter. Hein. Nous sommes dans la société du tweet, de l'instantané, de l'occupation. On fuit l'ennui. Or pour moi, l'ennui peut être fertile, mais il est relativement rare, surtout si vous marchez, si votre œil se fait à la steppe et que vous êtes capable très rapidement, enfin au bout de quelques semaines de marche, d'y glaner l'oignon sauvage, la fleur comestible, de reconnaître ici un fossile, là une agate, et il y en a beaucoup dans le désert de Gobi, alors la solitude, alors l'isolement, alors les problèmes d'orientation que vous rencontrez dans ce désert, le désert de Gobi qui fait 2000 km sur 500, et ben alors c'est moins une catastrophe qu'une mise à l'épreuve, et c'est ce que je trouve de très beau dans ce genre de paysage et dans la marche, c'est que ça vous met finalement face à vous-même, et forcément, du coup, vous mettez à l'écart votre ego. Et je pense que c'est la première démarche à faire lorsqu'on se porte à la rencontre des éleveurs nomades de Mongolie.
Alors, les éleveurs nomades, parlons-en, parce qu'on en rencontre quand même quelques-uns. On est souvent seul, mais on croise de temps en temps quelques habitants. Et c'est très étonnant parce qu'ils sont là, au milieu de rien. Tout à coup, il y a une yourte avec une petite famille autour. Il y a à la fois, quand on les rencontre, une vraie joie parce que ça faisait longtemps qu'on était seul, donc on est content de voir quelqu'un.
Exactement.
Et puis en même temps, un vrai sens de l'accueil.
Oui, tout à fait. Alors, les éleveurs, vous pouvez les rencontrer à deux ou trois lieux différents. Vous pouvez rencontrer le berger isolé seul au pâturage. Alors, avec lui, vous échangez quelques mots, les mots que vous apprenez dans votre dictionnaire en marchant. Vous échangez une cigarette, vous partagez le fromage séché qu'il garde dans la poche de son caftan. Et puis, vous pouvez aussi rencontrer au hasard d'un carrefour, d'une piste au milieu de la steppe, une famille qui descend d'une Jeep. Alors, généralement, c'est une Jeep de 4 places. Il y a 12 ou 15 personnes qui en descendent, un ou deux moutons, 100 kilos de pastèques, etc. Et puis, avec eux, vous allez déguster la bouteille de vodka qui traîne, la tête de mouton qu'on garde dans un sac plastique. Et puis, comme vous le disiez, il y a aussi la yourte, cette habitation nomade, cette tente circulaire. Et là, effectivement, on peut y faire des rencontres absolument merveilleuses. C'est là qu'on touche du doigt toute la générosité de l'accueil mongol qui fait de l'étranger non pas un motif de crainte ou de peur, mais plutôt une capacité à renouveler sa vie quotidienne, à enrichir finalement, à fertiliser la steppe et sa vie quotidienne. Et moi, je me souviens comme ça de rencontres assez merveilleuses. Lors de mon premier voyage, à la quatrième nuit, ma tente avait été emportée par une tempête de neige et à 10 heures le lendemain matin, après de nombreuses heures de marche à la boussole, j'ai rencontré Yadam Souren et son épouse qui m'ont hébergé, réchauffé et tendu un bol de soupe. Et ce bol de soupe, c'était finalement leur repas du soir. Et donc, ils n'ont rien mangé le soir avant de se coucher. Le lendemain, avant de repartir, j'ai commencé d'appliquer le précepte de la steppe, à savoir qu'il faut partager dans l'instant tout ce qu'on a, quitte à se mettre en péril pour le lendemain. Je leur ai donc laissé toute l'alimentation que j'avais dans mon sac à dos et je suis parti comme ça au hasard de la steppe.
Ah, c'est une leçon de vie.
Pour le jeune homme que j'étais, qui avait 25 ans à l'époque, j'en ai 44, vous voyez, j'ai vieilli, j'ai perdu des cheveux, mais je ressemble de plus en plus à la steppe pour mon cuir chevelu. Mais ça m'a forgé, mais ça m'a surtout rappelé ce qu'un missionnaire chrétien qui était là-bas au 19e siècle avait dit et que j'avais de la peine à comprendre. Il avait dit, c'est une phrase très simple, hein. Dès que nous eûmes connu ce peuple nomade, nous l'aimâmes. Et il vous suffit, comme vous le racontiez tout à l'heure, d'entrer sous la yourte, de partager une soirée, une nuit avec ces gens-là pour vous éprendre d'eux farouchement.
Marc Allo, vous restez avec nous. On continue ce voyage en Mongolie dans un tout petit instant sur Europe.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Et si on partait tous les jours entre 16h et 18h, un grand voyage. Vous le savez, nous sommes en Mongolie aujourd'hui. On a parlé beaucoup de la steppe, mais dans ce pays immense, il y a un désert culte dont tout le monde connaît le nom, mais que peu de voyageurs approchent vraiment, c'est le désert de Gobi. Alors Gobi, on imagine toujours que c'est un grand désert de sable, je ne sais pas pourquoi, mais pas du tout. En vrai, c'est un désert de rocailles, c'est de la pierre. Et beaucoup de Mongols ont une relation assez particulière avec ce désert. Les gens de la ville là-bas font parfois 12-13 heures de route depuis la capitale pour aller s'y livrer à quelque chose qui, pour nous, est un peu étrange. Ils vont y capter l'énergie du soleil. Et ça, je l'ai vécu une fois. Ça se passe très tôt, au lever du soleil, donc il faut y être avant 6 heures du matin. Donc les gens arrivent avec leur voiture, ils grimpent sur une sorte de colline, de rocaille. Et donc en haut, ça ressemble un peu à un gros parking de voitures improvisées en plein désert. Et là, juste avant le lever du soleil, tout le monde descend de sa voiture. Alors il y a les petites familles, les femmes, les enfants, la grand-maman, tout le monde est là. Et tout le monde va se poster en ligne, face à l'horizon, là où le soleil va se lever. Et il faut dire qu'à cet endroit, le paysage est incroyable. Petit à petit, vous avez sur l'infini devant vous, sur un horizon immense, un soleil qui se lève et un désert qui prend des tons orangés. C'est une sorte d'immensité d'orange. Les montagnes dans le fond sont oranges, le sol est orange, les pierres, tout est baigné de cet orange doux, très particulier. Et là, tout le monde se concentre pour essayer de voir le soleil qui apparaît. C'est très touchant de voir ça, parce que ça a l'air familial, cool, mais en même temps, c'est très sérieux. Les gens regardent l'horizon, et quand le soleil apparaît, tout à coup, ils lèvent tous les bras, tous, avec la paume des deux mains tournée vers le soleil. Ils ferment les yeux, et ils captent l'énergie de l'astre orange. Eh bien, regardez ça, c'est absolument improbable, féerique, incroyable. Parce que tous ces gens, ils sont comme vous et moi, c'est des gens de la ville. Il y a des tas de jeunes qui sont là avec doudounes et casquettes et qui viennent faire ça, qui viennent capter l'énergie du soleil et qui vous expliquent que ça leur procure un bien-être, une force intérieure, une force pour l'âme, très précisément. Et il y a des centaines de personnes. Et à la fin, ils sortent tous une brique de lait, alors c'est un peu étrange, et ils se mettent à lancer du lait. Ils lancent du lait en direction du soleil. Vous avez devant vous des centaines de personnes qui lancent du lait. Eh bien, en fait, c'est une offrande. C'est un remerciement pour remercier le soleil, l'astre orange, de toute l'énergie qu'il vient de leur offrir.
Et si on partait sur Europe 1, 2 heures d'évasion avec Philippe Googler.
Nous sommes toujours en ligne avec Marc Allot, qui est éditeur chez Transboréal, qui est voyageur. Ça fait 20 ans qu'il parcourt la Mongolie. Marc Allot, il y a une relation très particulière en Mongolie avec la nature, avec les éléments et avec, disons-le, les esprits de la nature.
Oui, tout à fait. Et l'illustration, l'exemple que vous avez donné de ces gens qui se rendent en un lieu pour appeler le bonheur en captant l'énergie finalement des forces de la nature, c'est quelque chose qui est tout à fait parlant et représentatif du rapport de l'homme à la nature, du rapport de l'homme aussi à ce qu'on pourrait appeler une sorte de surnature, c'est-à-dire une nature qui n'est pas forcément visible mais qui est peuplée d'esprits et qui dirige à la nature des animaux, à la nature des végétaux. Et en entretenant, comme le faisaient les gens que vous avez rencontrés, des relations avec les esprits, eh bien, les Mongols vont du coup pouvoir prélever les ressources de la nature dont ils ont besoin pour vivre sans contrarier les esprits. Autrement dit, en faisant des offrandes aux esprits, je peux prélever les plantes, les animaux, je peux chasser sans contrarier l'esprit maître des lieux. Ouais. Alors toutefois, de temps en temps, on perturbe l'harmonie, on perturbe l'équilibre. Vous parliez de capter l'énergie solaire, on peut aussi capter l'énergie du sol. Quand on parle de désert de Gobi en ce moment, on parle souvent des très grandes mines d'or, des très grandes mines de cuivre qui défigurent les paysages que vous parliez.
Et alors, est-ce qu'on peut du coup se faire pardonner auprès des esprits si on fait ça ?
Alors, bien souvent, les entreprises minières font appel à des chamans pour se concilier les esprits et puis tenter de rétablir l'harmonie perturbée. Et là, les travaux des anthropologues Laetitia Merli, Robert Tamayon, etc., disent bien cette recherche constante de partenariat avec cette sorte de surnature. C'est une forme élémentaire de religion, mais qui est vraiment l'expression du rapport des Mongols à la nature.
Et le chaman, c'est un personnage très, très courant en Mongolie.
Alors c'est un personnage, pardonnez-moi, que nous chargeons d'exotisme, mais en fait que les Occidentaux chargent d'exotisme depuis des décennies. Je me souviens d'un très beau récit de voyage dans les années 1930, une Française ou une Suisse, Gabrielle Bertrand, qui se rend dans cette région-là et à la recherche d'authentiques chamans à grelots. C'est-à-dire que dès les années 30, on était à tenter de chercher les derniers représentants du chamanisme ancien, etc. Alors que finalement, pour les Mongols, le chaman a toujours été en contact avec plusieurs mondes, parfois en contact aussi avec les prêtres bouddhistes, tout en gardant son efficacité au sein de la communauté. Le chaman, c'est cet être qui fait le lien entre la surnature, entre le monde des esprits et la société des hommes.
Marc Allot, vous restez avec nous. Nous continuons à explorer la Mongolie jusqu'à 18h sur Europe 1. Dans un tout petit instant, nous retrouverons Nathalie et Lal, mais on va faire une petite pause avec Iggy Pop, The Passenger, sur Europe 1. A tout de suite.
Europe 1, Philippe Googler.
Nous sommes en Mongolie jusqu'à 18h. C'est un voyage tout juste fantastique. Et là, nous allons retrouver Nathalie et Lal, qui va nous raconter une rencontre historique, un beau casting. C'est Marco Polo et un empereur mongol.
Oui, en effet, la rencontre de Marco Polo et de Kubilai Khan dans le somptueux palais d'été de celui-ci à Chengdu, dans l'actuelle Mongolie intérieure. Et vous allez le voir, c'est une histoire qui oscille entre vérité, légende et affabulation. Alors le contexte, Marco Polo, il naît à Venise en 1254 dans une famille de marchands plutôt débrouillards et avisés. Et à cette époque, il faut bien vous dire que Venise, c'est la grande république maritime et marchande, d'une puissance commerciale indépendante. Et beaucoup de ces marchands, eh bien, ils font du commerce avec les musulmans qui dominent la route de la soie, la fameuse route de la soie. C'est à l'époque la principale artère commerciale et d'information qui va de la ville chinoise de Xi'an à Antioche en Syrie, c'est-à-dire aujourd'hui la Turquie, une ville de Turquie. Mais certains, comme les Polo, la famille Polo, veulent passer en direct, comme on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire prendre contact avec les puissances asiatiques sans aucun intermédiaire. Donc Niccolo et Matteo Polo, qui sont respectivement le père et l'oncle de Marco Polo, partent en 1260 s'occuper de leurs comptoirs commerciaux à Constantinople. Et ensuite, ils entreprennent un voyage en Asie centrale et ils arrivent à rencontrer Kubilai Khan. Alors c'est le petit-fils de Genghis Khan, c'est le petit-fils de l'intrépide chef mongol qui a remporté de nombreuses victoires grâce à ses guerriers cavaliers. Et l'empereur Kubilai, il promet aux deux hommes le monopole de toutes les transactions commerciales entre la Chine et la chrétienté.
Tout ça ?
Absolument.
C'est pas rien.
Non, c'est pas rien du tout, parce qu'il a une seule exigence, il est curieux de l'Occident. Donc il demande qu'on lui envoie, en retour, des savants et des artistes capables de lui décrire le monde chrétien. C'est son obsession.
Donc, c'est un bon deal.
C'est raisonnable, c'est sympathique comme deal. Donc les deux hommes reviennent à Venise, ils mettent quand même 3 ans à revenir chez eux, et puis ils vont repartir en emmenant avec eux le jeune Marco, qui a 17 ans seulement.
Marco Polo.
Le jeune Marco Polo. Et c'est un voyage absolument incroyable qui passe par Saint-Jean d'Acre, c'est-à-dire l'actuel Israël, Bagdad, la Perse, c'est-à-dire l'actuel Iran, l'actuel Afghanistan et puis la Chine.
Et alors Marco Polo, quel rôle il a joué dans tout ça ?
Eh bien en fait, le rôle d'un véritable homme de main, il s'est mis au service de l'empereur Kublai Khan. On sait qu'il a effectué au moins 5 grandes missions pour lui. Par exemple, il se rend dans l'actuelle province du Gansu, il sert de messager dans une affaire qui implique des rois. Et ensuite, il rédige une sorte de rapport pour l'empereur. Il va aussi résider 3 ans à Yangzhou, une ville du centre de la Chine qui est conquise par les Mongols. Et l'empereur l'a chargé d'une sorte, on pourrait dire aujourd'hui d'un audit. Il va effectuer un contrôle financier dans le port à l'est pour vérifier qu'on ne dupe pas l'empereur. Et puis il est également...
Et donc ils sont très amis, très proches.
Très proches, il devient intime. Et il est envoyé également comme ambassadeur au Vietnam, en Birmanie et en Inde. En tout, il va passer, écoutez-moi bien Philippe, 24 ans auprès de l'empereur. Il faut dire que Marco Polo, il maîtrise 5 langues orientales et 4 systèmes d'écriture.
Ah, dis donc, je ne savais pas tout ça.
T'es talentueux, celui-là.
Mais oui, et comment on a des traces de tout ça, concrètes ?
Évidemment, on a ce fameux livre, bien connu, intitulé « Le livre des merveilles » ou encore « Le devisement du monde » qui est paru en 1298. Alors, il n'est pas écrit par Marco Polo. En fait, celui-ci, quand il revient à Venise, il va participer à une guerre qui oppose Venise et Gênes, vous savez, c'est l'autre grande république rivale, la rivale de Venise. Il est fait prisonnier et en prison, il va faire le récit de ses aventures à son compagnon de cellule qui s'appelle Rustichello de Pise, qui est un écrivain et qui va être justement le premier éditeur du livre. Alors malheureusement, on a perdu le manuscrit original. Mais on peut dire qu'aujourd'hui, ce livre des merveilles est à mi-chemin entre le reportage, le recueil de curiosités, le récit de voyage et aussi un recueil de données commerciales, une source en tout cas phénoménale d'inspiration pour tous les grands explorateurs, à commencer par Christophe Colomb, parce que la Chine est décrite comme un paradis pour tous les commerçants du monde.
Eh bien, quelle histoire ! Marc Allou, vous êtes toujours en ligne avec nous, vous êtes un amoureux de la Mongolie. Je rappelle que vous y avez parcouru à peu près 7000 km à pied depuis 20 ans. Là, on parlait de Marco Polo et du petit-fils de Genghis Khan. Genghis Khan, l'empereur mongol célébrissime, est-ce que pour les Mongols, il est toujours un personnage culte ? Est-ce qu'on s'y réfère beaucoup là-bas en Mongolie ?
Oui, alors on s'y réfère surtout au sein de la population majoritaire, les Khalkh, l'ethnie majoritaire, et puis surtout à Oulan-Bator, qui est une ville, comme toutes les grandes métropoles, dans laquelle la culture se mondialise peu à peu, et
c'est
les gens
capitale,
ont nécessairement besoin de repères. Ils ont d'autant plus besoin de repères que durant les 7 décennies de socialisme à la soviétique, que la Mongolie a connu des années 20 aux années 90, on a globalement interdit aux Mongols de se revendiquer mongol. On leur a interdit de parler de Genghis Khan. Si vous voulez, c'était un impérialiste, un colonialiste, et donc finalement, par extension, un capitaliste. Et donc, le retour de Genghis Khan, la renaissance du culte de Genghis Khan, ça répond à la demande d'une population désorientée, et ça y répond avec pertinence. D'autant que ce personnage-là, qui est presque moins maintenant un personnage historique qu'une sorte d'icône dont on réécrit l'histoire, c'est un ciment social. Il rassemble, il unit tout le monde. Tout le monde est d'accord à son sujet. C'était quelqu'un de bien, de formidable. C'est quasiment le père de la mondialisation, patati patata.
Oui, parce que son empire, juste enfin, pour ceux qui ne connaîtraient pas bien Gengis Khan, c'était un empereur mongol incroyable. Son empire était immense, ça allait jusqu'à la Turquie, c'est ça ?
Oui, globalement, de la mer de Chine aux portes de l'Europe et puis de la Sibérie au golfe du Bengale. Le plus vaste empire terrestre jamais fondé. Donc c'est quelque chose. Mais d'ailleurs, de nos jours, Gengis Khan, c'est aussi, en plus d'être un nom historique, une marque. C'est une marque commerciale. Ce sont des marques de bière, des marques de boissons énergisantes, des marques de vodka qui portent le nom de Gengis Khan. Le monde éditorial dont je fais partie en Mongolie publie une multitude de livres sur Gengis Khan tous les ans. Il y a à Ulaanbaatar une université, Gengis Khan, des bars qui portent son nom. Et puis en Occident aussi, il a suscité un imaginaire. Ça n'est rien de moins que Yul Brynner, John Wayne qui l'ont incarné au cinéma. Donc finalement, c'est une icône.
Olivier.
Quelle relation aujourd'hui entretient la Mongolie avec la Chine ?
Une relation de plutôt bon voisinage. Alors tout d'abord, la Chine est le premier partenaire commercial de la Mongolie, c'est-à-dire que ce vaste pays qu'est la Mongolie, mais qui est un géant dépeuplé, ne peut plus se passer de la Chine, qui auparavant était un ennemi, surtout à la période soviétique. Aujourd'hui, c'est donc le premier partenaire commercial. C'est aussi un partenaire qui commence à être culturel. Une multitude de partenariats se développent. Et puis surtout, la Chine achète l'immense majorité de la production de ressources minières que la Mongolie produit. Autrement dit, c'est le grand partenaire. Et c'est d'ailleurs le pays avec lequel la Mongolie partage le plus de frontières. Hein, c'est 4300 km de frontières et 70% des étudiants mongols qui étudient à l'étranger étudient en Chine. Donc c'est quelque chose de très très important.
Merci beaucoup Marc Allot de nous avoir raconté la Mongolie à votre façon. C'était passionnant. Merci beaucoup. Dans un tout petit instant, on va retrouver Olivier Pouls qui nous parlera d'une cuisine ma foi peu connue. C'est un challenge. Hein.
Faut-il qu'elle le soit plus ? Je ne sais pas. Je vous dirai dans un instant.
On parlera de la cuisine mongole. A tout de suite.
Europe 1. Et si on partait ? Philippe Googler.
Tous les jours, entre 16h et 18h, un grand voyage sur Europe 1. Et aujourd'hui, nous sommes en Mongolie jusqu'à 18h.
On ne connaît pas très bien la musique mongole. Hein.
Pas trop, mais moi j'aime bien. J'ai une vraie ambiance.
Ouais. Je sais pas si j'écouterai ça toute la soirée, mais...
Est-ce que ça se danse bien ?
C'est pas mal.
Ouais, c'est pas mal.
Pas mal.
Bon, on va l'écouter en mangeant mongol, ouais, alors.
Qu'est-ce qu'on mange en Mongolie ?
Ben, vous savez, autant la Chine, le pays voisin, est réputée pour une gastronomie éclectique et aujourd'hui mondialement réputée. Bon, la Mongolie, on va pas se mentir, c'est pas un grand pays de gastronomie. Ouais. Vous y êtes allé, vous avez pu constater qu'on n'y mange pas grand-chose.
On mange de la viande.
Ouais. Alors, et de la tête de mouton.
On y mange essentiellement des produits issus de l'élevage. Alors, on peut dire que le calendrier est divisé en deux grandes périodes, ce qu'ils appellent les mois rouges, les mois durant lesquels il faut, sont les mois froids, donc prendre des calories, prendre de l'énergie. Et donc, durant les mois rouges, on va manger de la viande, alors de la viande d'animaux d'élevage, de brouteurs en fait, donc de bœuf, de mouton, de yak, de cheval. Oui, de chèvre. Et alors, la viande, on la mange un peu sous toutes ses formes. Ouais. Je vais y revenir dans un instant.
Ce qui est fou, c'est qu'on mange vraiment que ça, de la viande.
Alors, les véganes en Mongolie sont tellement malheureux, c'est le cauchemar absolu. Il ne faut pas y aller.
C'est vrai. Hein.
Parce qu'on mange tout. On mange la graisse, on mange la chair, etc. Et puis, il y a les mois qui sont les mois plus cléments en termes de météo, les mois d'été. On appelle ça les mois blancs. Et là, on va manger des produits laitiers, beaucoup de produits laitiers, notamment du lait, du yaourt, un fromage, c'est en fait une espèce de lait caillé séché. Alors, on peut y rajouter dans le lait, par exemple, un peu de céréales, comme le millet, par exemple, pour donner un petit peu de force. Mmh. On boit énormément de thé.
C'est vrai.
Du thé au lait. Alors, la spécificité de ce thé, c'est qu'il est salé.
Oui.
habituellement l'été qu'on connaît.
Et un peu gras.
Voilà, alors on y rajoute là aussi parfois un peu de graisse pour, ouais, pour donner du tonus. Mais franchement, le plus intéressant, c'est probablement, ça je vous crois, c'est probablement la viande. Et alors, cette viande, on la prépare de différentes manières.
C'est comment, il y a un barbecue mongol,
alors,
y a...
Justement, il ne faut pas confondre, on trouve des restaurants, notamment à Paris, où on va vous voyez barbecue mongol. Et ça n'a rien à voir avec la Mongolie. En fait, c'est un barbecue qui était inventé par un Taïwanais dans les années 50, qui l'a appelé barbecue mongol parce qu'il trouvait que ça faisait pas mal. C'est une grande plaque en fait de fer qui est chauffée très fortement, sur laquelle on fait sauter la viande un peu à la façon en fait des Japonais, des teppanyaki japonais, mais ça n'a strictement rien à voir avec la Mongolie. Donc il y a plusieurs modes de cuisson. Il y en a un qui est très caractéristique et très typique là-bas. On fait chauffer des pierres dans un feu de manière extrêmement, extrêmement forte. On va mettre les pierres dans un pot en fer, notamment un pot à lait, par exemple. On va mettre la viande à l'intérieur. On va mouiller avec de l'eau et on va laisser cuire ça pendant plusieurs heures. Ensuite, il faut ouvrir le pot. Il y a une tradition mongole qui veut qu'on aille chercher les pierres à la main. Alors, si avec votre paume un peu sensible, vous n'essayez pas cette petite plaisanterie parce que ça finit mal. Et il faut se la passer rapidement et ça porte bonheur. Ouais. Et alors ensuite, on récupère la viande qui est là-dedans, qui a cuit pendant très longtemps, qui est donc forcément un peu bouillie, et on boit le bouillon. Alors, c'est pas fantastique. Moi, j'ai eu l'occasion une fois de faire une petite incursion en Mongolie, parce qu'il faut savoir qu'aux portes du désert de Gobi, côté chinois, il y a un vignoble. C'est un des vignobles les plus extraordinaires du monde. Et après avoir visité ce vignoble, j'ai fait un petit saut en Mongolie. J'ai mangé là-bas du mouton. Alors là, pour le coup, une espèce de vrai barbecue. C'est une espèce de petite cahute dans laquelle, on ne peut pas vraiment appeler ça un restaurant, dans laquelle on s'assied autour d'une table. Il y a un trou au milieu de la table, on y a mis des braises et une grille par-dessus, et ils ont fait griller un mouton. Et ce mouton avait été frotté avec un petit peu d'épices, et notamment, je pense, du cumin. Et il avait cuit très longtemps. Au moment où on est arrivé, il était cuit, et je pense qu'il avait été cuit, retourné pendant plusieurs heures. On le mangeait tout simplement avec les doigts, on détachait la chair. C'était extraordinaire. C'est un des plus beaux souvenirs de gastronomie exotique que j'ai, tellement cette viande était goûteuse, elle avait été cuite d'une manière parfaite. Puis ce moment de convivialité, on mangeait sans couvert, on mangeait avec les mains, et cette chair était confite, c'était absolument délicieux.
Moi, j'ai vu un truc, vous parliez tout à l'heure de la marmite dans laquelle on mettait la viande avec des pierres chaudes qui cuisent la viande. Et moi, j'ai chose à peine vous le raconter, parce que, alors après, ami vegan et ami des animaux, n'écoutez pas. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de casserole. Donc, j'étais chez des nomades. Et ce qui servait de casserole, en fait, c'était une chèvre vidée.
Ah oui, ils utilisent ça, effectivement.
Ils utilisent ça comme une espèce de cocotte minute.
Le coffre de l'animal sert de réceptacle.
La peau de la chèvre, donc, et donc tout l'intérieur est enlevé. Ils mettent la viande et des pierres chaudes à l'intérieur et ils cousent au niveau du cou, du col de la chèvre, je ne sais pas comment on dit. Et tout ça macère pendant un moment et ça cuit la viande. Et après, on ouvre la chèvre et on mange. C'est un peu spécial.
Et puisqu'on peut manger, qui est très bon là-bas aussi et qui s'est répandu là, en dehors, c'est la fondue mongole. Alors là, c'est vraiment typiquement mongol. C'est tout simplement de la viande qu'on va faire cuire dans un bouillon, c'est-à-dire de l'eau très chaude avec quelques petits légumes et quelques herbes, et vous plongez votre viande là-dedans, vous la laissez cuire, vous la mangez. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut manger en Chine et en dehors de Mongolie. Là, et puis, à la fin, on boit le bouillon parce qu'il s'est gorgé de tous les goûts des différentes viandes qu'on y a plongées.
Bah, dis donc. Et qu'est-ce qu'on boit alors ?
Du vin, non, puisque côté mongol, il n'y en a pas. Alors, si vous avez l'estomac vraiment bien accroché, vous pouvez tenter l'airak. Je vois qu'il y en a autour de cette table qui ont déjà dû goûter.
Ah, c'est dur ça.
Ça, c'est à réveiller un mort. c'est un lait de jument fermenté.
Ah oui, c'est dur.
Et ça, c'est très, très, très
particulier.
Mais
c'est pas possible, c'est juste pas possible.
Non, il n'y a qu'eux qui peuvent boire ça. Et puis, ils font aussi de l'alcool de lait. Ils distillent du lait, on arrive à des degrés d'alcool qui ne sont pas très élevés, mais enfin autour de 12-14 degrés. Et là, c'est pareil. Très franchement, je vous le déconseille formellement. non, le mieux, c'est encore de se rabattre sur le thé.
Et la vodka.
Alors, la vodka, qui est aussi une des boissons nationales très prisées là-bas. c'est pas la meilleure du monde non plus, mais enfin bon, au moins on est certain que
pour
l'organisme,
malade.
On va pas être trop malade, ce qui n'est pas forcément le cas avec l'Irak.
Merci beaucoup Olivier, on continue à voyager en Mongolie dans un tout petit instant avec les bons tuyaux de Jean-Bernard Carrier pour visiter et profiter de ce pays absolument fantastique. On le retrouve juste après Grand Corps Malade et Camille Lelouch dans Mais je t'aime sur Europe 1.
Europe 1, 16h-18h. Et si on partait ? Philippe Googler.
Avec tous les bons conseils de Jean-Bernard Carrier pour découvrir ce pays. Comment est-ce qu'on fait, Jean-Bernard ?
Alors moi, je conseille pour découvrir ce pays, il y a une grande fête qui célèbre la culture mongole, traditionnelle évidemment, ça s'appelle le Naadam, et ça a lieu chaque année au mois de juillet, à la mi-juillet d'ailleurs.
Bon, on est un peu tard là.
Alors on est un peu tard, ça sera pour l'année prochaine, quand on pourra revoyager.
Oui, parce que pour l'instant c'est un peu compliqué.
Mais je vous raconte quand même ça, parce que ça vaut presque le coup d'organiser son voyage en fonction de cet événement. À Oulan-Bator, et dans plusieurs autres endroits du pays. Mais c'est à Oulan-Bator qu'il y a les plus grosses festivités du Naadam. Alors en fait, il s'agit tout simplement, si je devais résumer cette fête, en fait, c'est les Jeux Olympiques version mongole. C'est les JO de la steppe, tout simplement, avec comme sport des activités traditionnelles mongoles qui se déroulent pas dans des stades, évidemment, mais dans les prairies à ciel ouvert.
Ah
ouais. On se croirait revenu au temps de Gengis Khan.
Ah, ça doit être chouette. Ah, il y a quoi comme épreuve ?
Alors, la plus impressionnante, à mon avis, c'est vraiment les courses de chevaux. On a parlé du cheval qui fait vraiment partie de la culture populaire locale. Les courses de chevaux avec des jockeys qui sont des enfants de 7 à 12 ans, tenez-vous bien, qui parcourent de très longues distances sur plusieurs dizaines de kilomètres avec quand même un certain danger, risque de chuter de sa monture, évidemment. Et puis parfois, il y a même des chevaux qui s'écroulent et qui meurent d'épuisement. On voit vraiment que c'est un peuple du cheval. Tous les risques sont pris pour cette compétition-là. Et puis, il y a une tradition à l'arrivée, c'est qu'on récolte la sueur des chevaux vainqueurs avec un racloir.
Ah bon ?
Et la sueur est conservée jusqu'à l'année suivante dans une espèce de fiole. C'est une forme de porte-bonheur. Voilà,
on n'en fait pas une boisson, quand même.
Non, parce qu'Olivier Pouls nous aura encore trouvé ça. Des vertus peut-être aphrodisiaques.
Peut-être le distiller.
Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très important. Alors, il y a une autre épreuve que j'aime beaucoup, parce que je suis un ancien judoka, donc j'aime beaucoup les arts martiaux. Et ben, c'est la lutte mongole. Alors ça aussi, ça fait partie de la culture locale. Ce sont d'excellents lutteurs, les Mongols. Et rien que le costume, de les voir avec leur costume, c'est très particulier. Ils sont vêtus de sorte de slip. De slip très coloré, très moulant. Ouais, franchement.
Ça vous fait rêver, ça.
Et d'une chemise moulante, elle aussi. Et la chemise, en fait, c'est une chemise qui est bizarre parce qu'elle couvre uniquement le dos et les bras. Donc tout le devant est ouvert. On croirait un peu des drag queens, hein, quelque part. Donc ça fait un peu bizarre de voir des espèces de molosses lutteurs avec des vêtements un petit peu bizarres. Voilà. Et puis ils ont des bottines en cuir en plus. Donc vous imaginez un peu le look. Donc c'est à la fois agréable à regarder parce que c'est très spectaculaire et en même temps l'engagement physique est très fort. Ça fait vraiment partie de la culture locale.
Ça vous a remué, hein.
C'est très photogénique en tout cas, ça je peux vous le dire. Et puis il reste la troisième épreuve reine de ce Naadam, c'est le tir à l'arc. C'est une grande tradition également dans ce pays.
Alors ça c'est pour le spectacle, parce qu'on ne va pas se mettre à lutter soi-même.
Non.
Et si on veut vivre une expérience au bout du monde,
Vous l'avez dit Philippe, le désert de Gobi, ça me fascine, c'est le désert des déserts avec 2000 km au sud du pays. Et là, figurez-vous, on n'en a pas parlé, mais c'est le royaume des chameaux. Oui. Pas des dromadaires, mais des chameaux.
Avec deux bosses.
Avec deux bosses.
Ce qui est assez rare.
Mais c'est complètement rare.
Il le mange aussi, d'ailleurs.
Alors, il faut savoir que...
la bosse de chameau.
Il y a beaucoup de gras dans cette bosse. Ouais. Il faut savoir qu'il y en a presque 200 000 des chameaux dans le désert de Gobi. C'est vraiment l'endroit au monde où vous les verrez, c'est sûr et certain. Alors, dans certaines villes, ils les décorent même leurs chameaux. C'est vraiment des animaux de compagnie, presque. Alors, pour se rendre dans le désert de Gobi, il y a des transports en commun qui desservent les principales villes. Il y a une route asphaltée. Le reste, c'est que de la piste, donc que de l'aventure. L'idéal, c'est quand même un circuit 4x4 qu'on organise depuis la capitale, Oulan-Bator, avec un bon guide et un bon chauffeur.
Mais c'est le plus grand désert du monde, donc on va où, concrètement ?
Écoutez...
À droite et puis à gauche.
Un des plus grands déserts du monde.
Alors, le désert de Gobi, en fait, c'est pas simplement un désert, parce qu'il y a des canyons, il y a des vallées, des montagnes, de la steppe, bien sûr, mais moi, ce que j'ai préféré, c'est les immenses dunes de sable de Kongorin Hills. Oui, parce qu'il y a des dunes de sable aussi dans ce désert. C'est des monstres de sable qui font jusqu'à 300 mètres de hauteur, 12 km de largeur et 100 km de long. Des dunes de 100 km de long, mon cher Olivier, je vois que vous faites... Ça a l'air de vous écarquiller les yeux. On se croirait sur la planète Mars. Alors évidemment, on peut les gravir à pied, ça fait partie aussi de l'expérience. On les gravit à pied, ça demande un bon petit effort. Il faut 45 minutes pour faire ces 300 mètres. Et c'est pas facile parce que vous imaginez, on monte un peu, mais ça glisse. Donc on redescend, vous montez de deux pas, vous redescendez de un. C'est un petit peu compliqué, on s'enfonce. Et au sommet, il y a des bourrasques de vent. Mais alors, la récompense avec le paysage sur toute l'étendue désertique sublime, ça vaut vraiment tous les efforts. Et une autre solution aussi, c'est de faire tout simplement une balade avec plusieurs jours en chameau. Alors vous n'êtes pas sur le chameau ça sert à transporter votre sac à dos, votre matériel, et vous faites des bivouacs tous les soirs avec les nomades. Ça, c'est vraiment une immersion incroyable au cœur de la culture mongole.
Ouais. Alors, est-ce que vous avez un moyen de transport préféré en Mongolie?
Le chameau.
J'ai un petit peu plus rapide quand même et un peu plus technologique, c'est le transmongolien.
Ah, oui,
Philippe, vous qui adorez les trains.
Mais qui fait partie du transsibérien.
Et qui fait partie du transsibérien.
C'est une branche.
Déclinaison, voilà, une déclinaison de branche du transsibérien. J'ai envie de vous dire, allez à Moscou, prenez ce transmongolien qui relie Moscou à Pékin. Le transmongolien s'arrête à Oulan-Bator,
la capitale. Les bons conseils de Jean-Bernard. Pour visiter la Mongolie, commencez par aller à Moscou, puis prenez le train et puis
écoutez, c'est une approche slow travel, c'est dans l'air du temps.
Slow, là,
mais en combien de jours on fait Moscou-Ulan-Bator?
Quelques jours.
Ah, quelques jours.
Voilà. Non, c'est pas non plus deux semaines. Alors vous descendez.
Non-stop dans un train.
Je sais que vous n'aimez pas ça, Philippe. Mais alors, on descend en Ulan-Bator, vous visitez la Mongolie à votre rythme, et puis après, vous faites le deuxième tronçon jusqu'à Pékin. Et sur ce tronçon, sachez que le transmongolien traverse le désert de Gobi. Ouais. Donc vous êtes confortablement installé dans votre wagon et vous avez tous les paysages désertiques du désert de Gobi qui se défilent à travers les fenêtres. Et avec des chameaux en arrière-plan. C'est franchement une expérience magique pour faire du train, ça.
Pour rejoindre ce que vous dites, si vous voulez vraiment faire le transsibérien, qui est un voyage qui peut se révéler assez monotone entre Moscou et Vladivostok, il vaut mieux faire le Moscou-Pékin.
Et via le transmongolien.
Via la Mongolie. Et donc le train devient le
changement à Ulan-Bator, 17h12.
Vous savez qu'il s'arrête une demi-heure à Ulan-Bator, le transmongolien. C'est vraiment incroyable.
Ouais, d'ailleurs, quand on fait ce genre de train, il faut absolument faire des étapes et rester plusieurs jours à certains endroits, sinon on n'a pas le temps de voir quoi que ce soit.
Mais bon, c'est une expérience à vivre, et puis vous serez avec des Mongols aussi dans le train, vous pourrez participer un peu à la vie locale.
Est-ce qu'il y a un wagon-restaurant dans le train?
C'est une yourte. Ça dépend des trains.
Il y a un peu tous les styles, ça va du train tout simple au train de luxe.
Et ils vous servent des carcasses de moutons.
Quelle activité nature on peut pratiquer en Mongolie?
Alors là, il y a vraiment un endroit à ne pas louper. C'est dans le nord du pays cette fois. C'est à l'opposé du désert de Gobi. C'est près de la Russie. Il y a une ambiance beaucoup plus sibérienne dans cet endroit-là. C'est un site qui est magique. Ça s'appelle le lac Kovskol. C'est un immense lac de montagne. Il fait 136 km de long. C'est un espèce de lac Léman version mongole aux portes de la Sibérie avec des eaux comme je les aime bien. C'est-à-dire, vous le savez maintenant, Philippe, des eaux translucides et d'un bleu presque polynésien. Voilà, ça c'est le lac Kovskol.
Mais froide.
On l'appelle froide. Voilà. On l'appelle la perle bleue. Ce qu'on y fait, c'est un superbe terrain d'aventure pour tous les amoureux d'activité. À commencer par les balades à cheval. Vous pouvez faire le tour de ce lac. Ça dure 2 à 3 semaines quand même sur un cheval, évidemment avec un guide qui vous y accompagne. Vous rencontrerez d'ailleurs des éleveurs de rennes pendant votre périple. Mais aussi, on peut y pratiquer la pêche. Ça vous dirait ça, Olivier? Un peu
pourquoi
de pêche?
Pourquoi pas,
la pêche, il y a beaucoup de truites.
Ce qu'on peut attraper. Ah,
des superbes truites. Voilà. Et puis, moi, ce que je préfère, c'est le kayak. Parce que le kayak, ça permet d'aller partout, de découvrir des petites criques le long de ce lac et des îles comme je les aime bien et de bivouaquer dans la forêt.
En une seconde, Jean-Bernard, on peut bien sûr dormir dans des yourtes en Mongolie, dans la steppe.
Impossible de quitter ce pays sans avoir dormi dans une yourte. C'est une expérience magique, vous verrez, c'est très bien organisé. C'est sobre à l'extérieur, très confortable à l'intérieur.
Merci beaucoup, Jean-Bernard. Ce voyage en Mongolie, on pourrait le poursuivre encore pendant une bonne heure. On a tellement de choses à raconter. Mais voilà, il faut savoir s'arrêter. Et demain, nous allons repartir. Donc, il faut prendre des forces maintenant. Nous allons partir pour le pays des aurores boréales, des sources bouillonnantes, des volcans actifs. Très beau voyage aussi, nous irons en Islande demain à partir de 17h et en première heure dès 16h, nous irons en France dans la cité phocéenne à Marseille, au pays de la bonne humeur et du château d'If. À demain, je compte sur vous dans un tout petit instant, le grand journal du soir. Bonjour François Claus.
Bonjour mon cher Philippe, je vous aurais bien invité à une dégustation de lait de jument fermenté, mais je dois présenter le journal, donc je peux pas.
Et puis on peut pas non plus.
Merci, on n'est pas dispo. On n'est pas dispo.
Non, quel beau voyage encore.
On a un verre pour vous François.
À très bientôt François.
À demain forcément.
À demain.
Et puis ça va me parler Marseille.
Et oui. Il va falloir tendre une oreille.
Bonne soirée à vous Philippe.
C'était « Et si on partait ?» avec Shiva. Le voyage reprend demain à 16h, mais d'ici là, profitez de l'été avec Shiva, le spécialiste du ménage et du repassage à domicile. Shiva, on a tous besoin d'attention. Europe 1.